sur mes mails, je regardais ce qu'il y a International Campaign, je ne sais pas qui doit être. Parce qu'en fait, c'est un sujet très très vaste et très complexe. Et je pense que ça aurait été bien que quelqu'un d'autre qui intervienne. Donc je compte sur vous pour. Si je vais donner quelques lignes, je veux dire, j'espère que des personnes ici vont apporter leurs connaissances et leur. Enfin, tout ce que je sais pas et puis plein d'autres choses. Et leur bilan critique, leur bilan, plein de choses, quoi. Parce que. Voilà, que je ne sais pas tout seul parce que c'est un sujet complexe et vaste. Et... Donc j'ai appelé ça l'expérimentation animale, deux points, une impasse. Point d'interrogation. Donc c'est un petit peu provocateur comme titre, et vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai encore un comme hier matin par rapport au siècle, là c'est encore pire, c'est un bilan critique aussi beaucoup envers. Je me suis dit c'est peut-être pas utile étant donné qu'on connaît tous à peu près ce qu'est l'expérimentation animale, j'ai pas emmené de vidéos, de photos, puisqu'on connaît tous, voilà. Je vais refaire un petit bilan de l'expérimentation animale. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de voir aussi à travers nos actions quel bilan. Enfin, je peux en parler, moi, c'est toujours pareil, c'est toujours ma façon de voir que vous ne partagerez peut-être pas et il faudra qu'on en parle ensemble. Mais c'est le bilan aussi des actions contre l'expérimentation animale, voir un petit peu est-ce que ça amène à quelque chose, est-ce que la façon de faire est bonne. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de débats en ce moment sur les listes. Et qu'on puisse partager ça ensemble, en fait, tout simplement. Donc je vais vous proposer une façon de voir qui est pas commune, enfin on en parle rarement de cette façon de voir, donc ce que je vous propose c'est de ne pas rentrer spécialement dans les débats actuels, on peut en parler mais ne pas se perdre dans ces débats qui ont déjà été bien amorcés, notamment sur l'utilitarisme etc. Et tout le débat philosophique peut-être arriver à aller plus sur un terrain sur lequel on va moins souvent, c'est le côté un peu plus pragmatique de la lutte contre l'expérimentation animale sur le terrain. Donc je peux vous donner un bref panorama de l'expérimentation animale. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à intervenir et à me poser la parole au fur et à mesure. Donc déjà, on en a parlé hier, le terme vivisection, c'est un terme effectivement qui est générique, qui pourrait parler de toute l'expérimentation animale, mais qui a aussi ce problème de... d'un point de vue pur, au niveau de la syntaxe, c'est coupé vivant. Donc c'est un terme qui me paraît déjà dangereux à la base, même si maintenant il a un sens commun, c'est-à-dire qu'en face, dès qu'on a des gens pro-expérimentation animale, ils vont tout de suite nous dire « Ah non, c'est pas la vivisection », donc déjà il y a une coupure du dialogue. Moi, à mon avis, il y a plus d'intérêt à ne jamais utiliser ce terme, ou alors uniquement quand effectivement on fait vraiment des expériences de vivisection, notamment dans l'enseignement, et quand on coupe des grenouilles, effectivement, ou des choses comme ça, et de préférer ce terme expérimentation animale. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord ou pas. Parce que je sais qu'il y a des grands débats, et les associations aiment bien utiliser ce terme vivisection qui flash, mais en même temps, je pense qu'on on donne un bâton pour se faire battre. Donc c'était déjà une... Je ne sais pas, vous avez des... il y en a qui sont assez pro-vivisection. Enfin, au niveau du terme.
Ouais, avec...
Non, au niveau du terme, parce que je sais qu'il y en a qui sont... Il y en a que ça dérange, le terme expérimentation animale, non? Bon, très bien. Donc en gros, plus de 100 millions d'animaux officiellement dans le monde qui sont sacrifiés donc pour l'expérimentation animale, ce qui fait un par seconde aux États-Unis, un toutes les 3 secondes, toutes les 4 secondes en Europe, c'est à peu près les chiffres qui ressortent. Plus de 10 millions d'animaux dans toute l'Union européenne officiellement. Et en France, on est entre 2 et 3 millions. Officiellement, les données de 2001, c'est 2 212 000 animaux. Oui.
Pour la France ?
Oui, c'était 2001 ça, les dernières statistiques. J'ai pas réussi à avoir les 2004 encore.
Mais ça, c'est des chiffres qui...
officiels, les statistiques officielles du ministère de la Recherche. Donc 2 212 294. principalement des souris, donc 1 370 000 souris, des rats, donc 471 000 rats, des cobayes, des hamsters, donc 59 000 cobayes, 20 000 hamsters, 53 000 lapins, il y a quoi d'autre ? Il y a 7 800 porcs, tout ça c'est officiel, hein. 5 936 ovins, 2 648 bovins, on a au niveau des singes, on a 3 000 cercopithèques, 0 singe anthropoïde, c'est pour ça qu'il me paraît aussi dangereux dans les campagnes d'utiliser les photos de chimpanzés dans la mesure où il n'y en a aucun en France. L'écaille, on en parle rarement, mais c'est aussi utilisé. 5000 cailles. Les autres oiseaux, quand même pratiquement 90 000 oiseaux qui sont utilisés. Reptiles, 1214 reptiles. Les amphibiens, 12 000. Les poissons, 96 000, pratiquement 100 000 poissons. Ben voilà, ça c'est les chiffres officiels que je vais vous dire pourquoi je conteste sur le fond. Donc les rats et les souris, c'est l'avantage, c'est que c'est un animal, donc comme je vous disais, 1 370 000, donc c'est quand même la grosse masse des poissons, ça va faire du 60-70%. La grosse masse des animaux qui sont utilisés en expérimentation animale. L'avantage, c'est que c'est un animal qui demande peu d'entretien, qui prend peu de place et qui se reproduit facilement. Voilà, donc moi je viens de Strasbourg, il y a ce qu'on appelle la clinique de la souris de Pierre Chambon. Ce sont 70 000 souris qui sont tout simplement dans des tiroirs. Voilà, ça prend pas de place, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser ça que des chiens ou des singes. D'ailleurs, au niveau des chiens, il y en a 5516 au niveau national et les chats, 1383. Les lapins, donc, comme vous savez tous, sont utilisés principalement en toxicologie, le test de Dress, c'est-à-dire le test sur la cornée du lapin, donc pour tester la toxicité des produits. L'avantage, c'est qu'effectivement, il a un système lacrymal qui est très peu développé, ce qui permet que les produits restent dans l'œil et ne pillent pas. C'est toujours d'un point de vue pratique, hein, si certaines espèces sont utilisées. Donc 64 000 lapins à peu près utilisés. Les cobayes, les cochons d'Inde, le cobaye cochon d'Inde, c'est la même chose. Le hamster donc, est utilisé notamment en toxicologie, tout ce qui est épiderme. J'ai vu les photos là bronzées sans cruauté, on les voit écartelées.
Le test de Dres est encore utilisé en France.
Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Hein.
C'est quoi le test de Dres?
On met les produits sur la cornée du lapin, donc sur l'œil du lapin, pour voir en fait comment l'œil. Il y a tout un schéma où on voit l'œil qui va de plus en plus aller vers la cécité. Et selon le degré de cécité du lapin, on va estimer la toxicité du produit. Les cobayes, donc les hamsters, toxicologie sur l'épiderme. Donc ceux qui veulent, il y a une photo là-bas avec les bronzés sans cruauté. Donc on rase les hamsters ou les cobayes et on leur met le produit sur la peau. Donc ils sont attachés et on voit aussi au niveau des brûlures qu'est-ce qui va se passer sur la peau. Les chiens, c'est notamment la toxicité, la recherche sur le cerveau, la chirurgie dentaire aussi. On parle rarement de la recherche dentaire, mais c'est une énorme partie en fait, de l'expérimentation animale. Ils sont utilisés principalement les beagles pour une raison très simple, c'est que c'est un chien très docile et très, très gentil. C'est plus facile que d'utiliser un doberman. Il y a toujours le côté pratique de l'animal. Hein. Voilà. Au niveau de l'évolution d'expérimentation animale, alors officiellement, il y aura une baisse énorme. Des rongeurs, on serait passé de 1984 à 2001 de 4 500 000 rongeurs à 1924. Non, pas 1924, 1 924 000, ce qui fait quand même plus divisé par deux officiellement. Sur le total, on serait passé de 4 833 000 animaux, donc je vais arrondir, donc 5 millions d'animaux en 84 pour arriver à 2 3 millions aujourd'hui. Donc officiellement, il y aura une division par deux. Alors les chiffres, pour moi, je vous disais que ce sont des chiffres officiels, mais officieusement, je pense qu'il y a un gros problème. C'est que déjà, ce sont des formulaires qui sont envoyés au laboratoire et on leur demande combien vous utilisez d'animaux. Et le problème, c'est que beaucoup de laboratoires déjà ne répondent pas. Il n'y a pas une obligation légale. Ensuite, toutes les espèces ne sont pas dans les tests statistiques. Alors je pense à des espèces qu'on oublie complètement, mais qui sont énormément utilisées. Ça peut être les mouches, ça peut être les vers, ça peut être... Tout ce qui est invertébré ne sont pas du tout comptabilisés là-dedans. Tous les animaux morts, donc morts lors de la capture. Il y a encore la capture, notamment au niveau des singes, je pense notamment au niveau des babouins. Au niveau du transport, comme vous savez, les transports de primates, notamment par les sociétés Sabema, Air France, etc. Toutes ces pertes d'animaux pendant les transports ne sont pas comptabilisées. Lors de l'élevage, les animaux ne sont pas comptabilisés. Et lors des expériences, tous les animaux qui sont morts ne sont pas comptabilisés non plus. Les animaux qui sont utilisés dans l'enseignement ne sont pas comptabilisés non plus, donc ça fait quand même énormément de grenouilles, plus ou moins d'ailleurs légales. Donc d'après les organisations telles que la Coalition Européenne pour mettre fin à l'expérimentation animale pour qui j'ai travaillé, les chiffres, eux, sont au niveau plutôt de l'augmentation que de la diminution. Donc ils disent qu'au sein de l'Union Européenne, depuis 1999, il y aurait une augmentation de 9% du nombre d'animaux utilisés. Donc on serait autour de 10 millions. Le Luxembourg, la Finlande ont une augmentation massive de plus de 500% de l'utilisation des animaux de laboratoire ces 4 dernières années. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne comptabilisent donc plus de la moitié de tous les animaux utilisés dans l'UE. Il faut savoir que c'est la Grande-Bretagne qui est la première utilisatrice et la France juste derrière. Même ce qui est bizarre, c'est que même si le mouvement animaliste, ou je ne sais pas comment vous dites, animalier, est très fort en Grande-Bretagne, c'est quand même le premier utilisateur actuellement d'animaux de laboratoire. Les animaux dans les laboratoires, pardon.
C'est quoi le mouvement animaliste en Grande-Bretagne?
Même si la conscience au niveau de du respect de l'animal est justement très développé, tout le mouvement végétarien, etc. Pourtant, c'est quand même le pays aussi
qui est,
malgré les présences aussi du Front de Libération Animale, enfin, une pression qui est quand même beaucoup plus grande qu'en France. Je pense que vous êtes d'accord. Mais c'est quand même le pays qui utilise le plus d'animaux. Mais ça, j'ai pas d'explication. Je sais pas si quelqu'un en a.
C'est quoi le chiffre que vous utilisez ?
Deux.
Par rapport à nous ?
C'est un tout petit peu plus, c'est 2,5 millions, officiellement. Et nous, on est autour de 2,2 millions, 2,3 millions. Donc la France, ça représente à peu près 20% de tous les animaux qui sont utilisés donc, en Europe. L'utilisation des primates a augmenté de 14% depuis 1999. Donc, principalement donc, en recherche neurologique. Je sais aussi que j'avais vu des protocoles sur l'énergie atomique. Donc, il y a beaucoup aussi pour toute l'utilisation et le développement d'armes qui sont utilisées, où les primates, babouins et macaques notamment, sont utilisés. L'utilisation des chiens a augmenté de 30% depuis 1999, donc pour un total de 21 000 chiens. L'utilisation des animaux en toxicologie a augmenté de 40%, ce qui n'est pas anodin, puisque la toxicologie, à mon avis, je sais que la coalition va dans ce même sens, c'est certainement les expériences les plus problématiques au niveau de la douleur et de la souffrance de l'animal.
Toxicologie, ça veut dire
Toxicologie, c'est toute l'utilisation, les tests de produits toxiques, en fait, sur les animaux, donc c'est autant la DL50 que le test de Dress, que le test...
Peut-être sur les poissons,
voilà.
Pour être
donc soit on, voilà. Donc soit on fait avaler, soit on fait, on met sur l'épiderme, soit sur l'œil, soit le.
Et,
oui.
Je sais pas si tu vas en parler après, mais avec les poissons, c'est quoi les expérimentations qu'on fait avec les poissons?
J'ai vu qu'il y avait beaucoup de sur le cerveau, bizarrement.
Sur le cerveau,
mais après j'ai pas de données particulières. C'est vrai qu'il y a peu de choses là-dessus.
Il y en a beaucoup en toxicologie justement en milieu aquatique, voir l'impact des produits quand ils sont déversés en milieu aquatique.
D'accord. Et on a trois fois plus d'animaux qui ont été utilisés dans l'enseignement par rapport à 99. Et il faut voir aussi, évidemment, bien sûr, il y a une énorme utilisation de plus en plus, et c'est peut-être le vrai problème, c'est par rapport à tout ce qui est l'aspect transgénique. Parce qu'il y a de plus en plus de recherches à ce niveau-là. D'ailleurs, la clinique de la souris dont je vous parlais, les tiroirs sont des souris. Alors, vous avez les souris phosphorescentes, les souris humanisées, les souris... Enfin, chaque souris, en fait, devient une sorte de souris mutante. Voilà, donc au niveau pourcentage, on a principalement de recherche et développement en médecine, 35%, tout ça c'est officiel. Les essais toxicologiques représentent 11%. La formation représente 3%. Enfin, tout ça c'est des chiffres, je sais pas si c'est très intéressant. La biologie fondamentale, 19%, c'est-à-dire toujours la recherche par rapport au cerveau, par rapport aux fonctions biologiques, c'est des recherches. Il y a des trucs assez hallucinants qu'on continue encore aujourd'hui. Toxicologie c'est 11% officiellement et les cosmétiques sont même pas marqués parce que ça représente moins de 20%, on en reparlera après. Alors ce qui me paraissait important ce matin, c'est pas enfin, je sais pas si ça vous intéresse, certains veulent parler d'expériences particulières ou d'aspects particuliers de l'expérimentation, c'est peut-être de voir aussi un petit peu les arguments des abolitionnistes, enfin là c'est là que me pose moi ce qui me paraissait important de creuser un petit peu la chose et les arguments aussi en face. Donc j'ai regardé un petit peu sur tous les sites les arguments, donc je vais vous les dire. Ressort systématiquement, donc j'ai regardé, voilà, donc International Campaign, donc qui est un collectif de, c'est quoi, c'est des particuliers qui ont lancé ça, je ne le connais pas.
Ouais. Des groupes locaux.
Donc premier argument, ne pas craindre d'utiliser l'argument scientifique même si nos motivations sont d'ordre éthique. One Voice évoque en premier lieu l'inutilité des expériences d'un point de vue scientifique.
Ça veut dire l'argument scientifique.
Ouais, donc l'argument scientifique, c'est-à-dire que le modèle, aucune espèce ne peut être le modèle biologique d'une autre espèce. Je vous donne un exemple très simple. Si vous utilisez un macaque, par exemple, vous donnez le virus du sida, ben, le macaque va vous rire au nez, ça ne lui fera strictement rien, nous on va en mourir. Si vous donnez le virus de l'hépatite B, par exemple, à un macaque, il y a un macaque sur 10 qui va développer une petite hépatite bénigne, mais bon, ça va... Alors que nous, on peut mourir de l'hépatite B. Et si vous avez donné le virus Ebola, le macaque va être mort tout de suite, comme nous. Ce qui montre à travers cet exemple du macaque, on va avoir un résultat qui va être totalement semblable à nous, partiellement semblable ou complètement différent. Voilà, donc des scientifiques comme Claude Rice, le docteur Langley, etc., et des coalitions pro-anima ou antidote, etc., donc qui sont des comités scientifiques, dénoncent le modèle animal comme un modèle fiable, puisque lorsqu'on fait une expérience sur l'animal, on ne va pas pouvoir la transposer le résultat sur l'homme. Et ils disent qu'on va vérifier le résultat sur l'homme qu'une fois qu'on sera passé sur l'homme, donc à quoi bon faire sur l'animal. Voilà. Et donc ces arguments sont développés, donc ils disaient par International Campaign comme premier argument, One Voice pareil, les contre-arguments de la Ligue française contre la dissection. Aussi, nous leur opposons l'argument suivant, donc aux gens qui font l'expérimentation animale. Aucune espèce ne peut être le modèle biologique d'une autre. Le Graal, donc qui est le c'est quoi, c'est une association,
groupement d'action, une réflexion pour l'animal libération. Je
crois. Voilà, c'est un peu comme ça. Dans ses objectifs généraux, préconise pour la dissection de généraliser les méthodes in vitro, c'est-à-dire des méthodes toujours d'un point de vue scientifique. Les méthodes in vitro permettraient de faire des expériences pour tester les médicaments ou tous les produits industriels, en passant par un autre modèle, ce qu'on appelle in vitro, au contraire de in vivo sur l'animal, donc d'essayer de trouver d'autres voies qu'on appelle méthodes alternatives ou substitutives. Les arguments de Trondheim-Dani, les animaux ont payé un trop lourd tribut à la science. Au XXe siècle, dans un pays qui se dit civilisé, il est insupportable de voir que des animaux sont sacrifiés pour les besoins de la science et que si peu de moyens sont mis en œuvre pour bannir définitivement le recours au modèle animal. On revient toujours sur ce problème de modèle animal. Or, seule une réelle volonté politique au niveau européen et mondial pourra venir à bout de l'expérimentation animale et voter les crédits nécessaires à la recherche, au développement et à la mise en place des méthodes dites substitutives. On trouve toujours la même ligne.
Ça, c'est la SPA ?
Ça, c'est 30 millions d'amis.
Mais ils disent pas que le modèle est pas valable.
Non, mais ils reparlent toujours du bannir définitivement le recours au modèle animal.
Oui, ils sont pour l'abolition, mais c'est pas leur argumentation. Enfin, il y a une argumentation qui n'est pas scientifique.
Bah, à partir du moment où ils parlent de modèle, je trouve qu'ils parlent quand même de point de vue de fiabilité.
Oui, mais ils remettent pas en cause la validité du modèle.
Non, ils le disent pas.
Il y a différents arguments dans ce que tu as présenté.
Parce que je voulais montrer, c'est que systématiquement, c'est l'idée de modèle animal et de développement de méthodes subtiles, c'est-à-dire l'aspect scientifique.
Mais de reconnaître que l'animal est un modèle ou conçu comme tel dans l'expérimentation animale, ça c'est le principe même de l'expérimentation animale. Mais il y a des associations qui vont le remettre en cause,
oui.
Qui vont dire que c'est faux. C'est pas un bon modèle, et d'autres qui ne le disent pas. Enfin, dans la phrase de l'ESPRI, de 30 ans d'années, ils ne disent pas que le modèle n'est pas bon.
Mais ils parlent pas du point, ce que je veux dire, c'est qu'ils parlent pas du point de vue éthique ou d'un autre point de vue. Pourquoi on peut contester l'expérimentation animale ?
Bah, si, je pense.
Bah, tel que c'est écrit quand même, si.
Si, parce qu'il dit, vas-y.
Il parle de
Les animaux ont payé à trop lourd tribut à la science au XXIe siècle. Dans un pays qui se dit civilisé, il est insupportable de voir que les animaux sont sacrifiés pour les besoins de la science et que si peu de moyens sont mis en œuvre pour bannir définitivement le recours au modèle animal.
Ça paraît entièrement
oui,
éthique comme.
Ouais. Enfin. Or, seule une réelle volonté politique, j'ai peut-être trop la tête dans le guidon, j'ai vu les choses que je voulais voir. Au niveau européen et mondial, pour venir à bout de l'expérimentation animale et voter les crédits nécessaires à la recherche, au développement et à la mise en place de méthodes dites substitutives. Et c'est là que je vais vous expliquer pourquoi ça me dérange le côté méthode substitutive. Mais je vois ce que vous voulez dire peut-être.
Ils ne disent pas que le modèle n'est pas bon. Scientifiquement, je vais dire.
Fondation Bardo, pourtant aujourd'hui il existe de nombreuses méthodes de substitution. Le modèle animal n'est pas transposable à l'homme.
Là, d'accord.
Ah, non, je suis d'accord. Voilà. Donc, moi, ce qui ressort, donc, alors, je vais mettre entre parenthèses par rapport à 30 millions d'amis. Donc, c'est le sans rejeter, parce que je ressors, et aussi par rapport à l'expérience que j'ai eue au sein de la coalition et au sein de One Voice, c'est que systématiquement est remis en avant ce modèle animal. Dès qu'il y a une conférence, dès qu'il y a des interventions sur l'expérimentation animale, on parle du modèle animal qui n'est pas fiable. C'est-à-dire qu'on va affirmer, déjà on va essayer de trouver la confiance dans des scientifiques, il faut être quand même honnête, moi je suis pas scientifique, j'en sais rien, mais que quelque part, je vais dire moi par rapport à moi-même, je vais chercher quelque part le scientifique qui va dire ce qui m'arrange. C'est-à-dire je vais être pote avec...
Chut, ah non, Randy, Randy.
Dedans.
J'ai pas commencé tout ça. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Au labo.
Le traditionnel fightage entre.
Non mais.
On a une autre traditionnelle rencontre animalière de ce matin. Oui, donc je vais prendre par rapport à moi, mais je ne sais pas si vous le ressentez pour vous. C'est-à-dire que finalement, j'écoute les arguments de Claude Reiss. Je ne suis pas scientifique, je vais me dire... c'est pour avoir un bilan critique. Je me dis finalement, Claude Reiss, j'adore ses arguments. Je vais suivre les arguments de Claude Reiss parce que quelque part, ça m'arrange. Parce que je suis contre l'expérimentation animale à un autre niveau, mais je me dis ça m'arrange. Donc finalement, c'est lui qui a raison. Et que je vais rejeter systématiquement tout ce que dira Pierre Tambourin d'un point de vue scientifique. Alors qu'en fait, je ne suis pas scientifique, donc je fais confiance à Claude Reiss ou à Langley parce que ça m'arrange. En gros, je prends ce que j'ai envie d'entendre. Évidemment, cet argument scientifique, mais avant tout l'argument de l'intérêt humain avant l'intérêt de l'animal, c'est-à-dire que c'est le résultat de l'expérimentation animale qui compte et pas l'expérimentation. On va contester le résultat de l'expérimentation animale, mais on ne va pas contester l'expérimentation animale elle-même, ce qui n'est pas sans poser de problème. Et ce qui sous-entend, ce qui me paraît encore pire, c'est que ça sous-entend que si le modèle était fiable, l'expérimentation animale serait acceptable.
Et en fait, moi, je pense que des fois, le modèle est fiable.
Bah, moi, je.
Il me semble que, je sais pas, par exemple, par exemple, le truc dans l'œil du lapin, là. Lui, de toute façon, il le voit bien. Parfois, peut-être qu'ils doivent expérimenter sur des animaux. Et comme tu dis, après, ils expérimentent sur des humains, en fait. Et peut-être qu'ils doivent se rendre compte que ça se passe de la même façon. Donc, pour cette expérimentation-là, bah, le modèle est fiable.
Je sais pas, je suis pas scientifique, enfin, donc je reste avec un. Je reste
puisque, quand même, il y a plein de choses très très similaires. D'après moi, le modèle est fiable parfois.
Mais j'ai vu pas mal d'aberrations, effectivement, où les choses ne collent pas du tout et que c'est un petit peu du. Ça, c'est clair. Après, est-ce que ça a permis d'éclairer la piste scientifiquement par rapport à d'autres choses? J'en sais rien, en fait. Je sais pas, justement, c'est le. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que quelque part, c'est. Si, puisqu'on utilise souvent ce modèle animal, ça se voit que si le modèle animal était fiable, l'expérimentation animale serait acceptable.
Bah justement, or, c'est pour pas ça notre que position, ça paraît être un argument faible pour dire que voilà, l'expérimentation animale est acceptable éthiquement.
Mais le problème, c'est que je vois que tous les mouvements, en tout cas, quand j'étais à One Voice et tout, et la LFCV, ils l'utilisent pratiquement tous, c'est l'argument central.
Ah ouais,
et
d'accord.
Tout le monde bosse avec ProAnima. Alors que c'est un comité scientifique, je veux dire, qui est très très bien, mais qui bosse sur le point de vue scientifique, c'est leur boulot. Mmh. Or, toutes les associations de défense animale se sont rangées derrière ça, au lieu de développer quelque part leurs propres arguments, ce qui ne veut pas dire qu'il faille rejeter complètement. On peut faire référence, effectivement, à Claude Reiss, à Antidote, et à ProAnima, etc., plutôt que de se ranger tous derrière un argument qu'on ne maîtrise pas. Mmh. Et ensuite, le problème des méthodes, je préfère substituer parce qu'alternatif, bon, c'est-à-dire qu'on peut alterner l'un et l'autre. Les méthodes substitutives, pareil, on n'arrête pas de nous déclarer, toutes les méthodes substitutives existent, etc. Moi, je suis persuadé du contraire.
Ah oui, d'accord.
Je suis persuadé du contraire pour avoir vu les choses. Et ça m'arrangerait de penser, effectivement, ouais. Déjà parce que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode substitutive pour beaucoup de choses. Et que le problème ne se situe pas à ce problème.
Ouais, par exemple, pour les greffes, j'imagine, quand ils expérimentent la greffe, je ne sais pas, moi, avant d'avoir pu greffer une main à un bras, ils ont dû expérimenter sur des animaux.
Tout à fait, oui.
D'après moi, c'est un modèle viable, quoi, parce qu'ils expérimentent les connexions nerveuses, les connexions sensibles.
Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, mais après,
non,
c'est...
Non, d'accord,
tout à fait,
c'est pour dire que la France, c'est...
Ouais. Donc, les méthodes substitutives, il faut savoir qu'au niveau européen, les derniers chiffres que j'avais vus, c'était, que je ne vous dise pas de bêtises, c'était 3 milliards d'euros qui étaient débloqués pour l'expérimentation animale contre 12 millions pour les méthodes dites substitutives. Donc, faites le rapport, je veux dire, 12 millions d'euros contre 3 milliards... c'est d'ailleurs que tout est pour l'expérimentation animale. Donc le vrai problème, il ne faut pas nous dire qu'il y a des méthodes substitutives, à mon sens. Et surtout quand on sait qu'une méthode substitutive, il y en a trois qui ont été validées au niveau... Trois ou quatre qui ont été validées au niveau européen. Il a fallu 11 ans pour les valider, parce que ça traîne. Et au bout d'11 ans, de toute façon, elles ne servent plus à rien, parce que ce n'est plus dans les besoins. Le truc a été dépassé depuis longtemps. Donc ça veut dire, effectivement, il faut peut-être développer des méthodes substitutives, mais il ne faut pas dire qu'il y a des méthodes substitutives pour tout. Et à mon avis, c'est mensonger. En plus, c'est encore prendre un bâton pour être battu, parce qu'à mon avis, c'est pas la vérité. Ce qui...
Est-ce qu'on peut décrire ici de façon succincte ces fameuses méthodes? Je ne les connais pas du tout.
Non, j'en suis incapable.
C'est bien dommage. Hein.
Non, c'est au niveau des cellules, c'est au niveau, il y en a qui nous disent au niveau de la chromatographie gazeuse, des choses comme ça.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de tentative de faire un clonage pour simplement faire vivre des morceaux du muscle? C'est une sacrée question. Moi, il m'a semblé entendre ça, qu'on était parvenu à cloner et faire évoluer un jarret de porc, sans l'animal entier. Est-ce que j'ai une énorme connerie ou est-ce que ça part à quelqu'un?
Il me semble qu'il recherche ça, oui.
Il me semble que c'est un peu...
Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, mais sur une souris en général. Où les souris sont utilisées comme port d'un organe ou comme port de quelque chose qui est développé. Mais en tant que tel, sans autre organisme vivant à côté, j'ai jamais entendu parler, mais peut-être. Et c'est un peu l'intérêt d'ailleurs de la clinique de la souris de Pierre Chambon à Strasbourg, justement. Et le problème aussi, par rapport, c'est-à-dire qu'à force de dire que le modèle n'est pas fiable, bah, les scientifiques aussi l'entendent et ils vont nous finir par nous faire des modèles fiables, effectivement, en faisant des souris humanisées. Donc il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, à force de développer ce genre d'argument, on va arriver face à une réalité où effectivement on aura des modèles de plus en plus fiables.
C'est comme les cochons vieux, là.
Oui.
Élevés en pleine stérilité.
Ouais, à l'IRCAM notamment.
Qui vont servir pour les tests sur les greffes, même pour greffer les organes de ces cochons sur l'humain. Ouais,
ouais. Les babouins aussi, les cochons.
C'est ça. Mais en tout cas, il y a une méthode toute simple en expérimentation pour l'enseignement. C'est l'Inde qui a mis au point des logiciels justement pour ne pas tuer les animaux.
Oui.
L'Inde, ce pays formidable quand même. Ils ont mis au point des logiciels qui revendent, je crois, je ne sais pas. En tout cas, la France n'a pas l'air très intéressée, mais ils ont des logiciels d'expérimentation.
Et on peut les trouver sur ce que ça intéresse, sur Interniche, Euroniche, je crois qu'il s'appelle maintenant. Donc oui, effectivement. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de méthode substitutive, je veux dire, on ne peut pas généraliser, à mon sens. De répondre toujours, il y a des méthodes substitutives, elles demandent à être développées, mais à mon avis, je vais vous montrer, enfin, c'est mon idée, que le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas quelques méthodes substitutives, qu'on ne pourrait pas faire autre chose. Et il y a tout un rapport qui, je ne sais pas si vous connaissez, The Way Forward, le chemin à suivre, qui est publié sur le site de One Voice, expérimentationanimale.org, de Dr. Langley, donc, qui explique un petit peu tous les protocoles d'expérimentation animale et qui propose des alternatives. Donc ce sont des pistes et certainement il y a des choses à développer à ce niveau-là. Je ne rejette pas tout en bloc, mais je pense qu'il y a quand même c'est une voie un petit peu dangereuse qu'on a pris.
Proanima avait une cassette aussi sur les méthodes substitutives.
Ouais, c'est pour ça que je suis incapable de l'expliquer, parce que je ne comprends même pas leur cassette. C'est bon. Scientifique, quoi. Il faut vraiment une culture. Par rapport à la question sur quelles sont les méthodes substitutives, je peux dire culture sur cellules, je peux vous dire la chromatographie gazeuse, des choses sur ordinateur, mais je veux dire, ça va rester très flou et ce serait une réponse de gens qui ne connaissent rien.
Ce que tu viens de dire, déjà, moi, même une part, c'est une chose scientifique. Et j'aimerais bien avoir un résumé, tu le diras derrière toi, sur Internet, je pourrais regarder. Mais là, on est ensemble, donc je me dis, tiens, on pourrait peut-être expliquer l'expérience de certains.
Je ne sais pas s'il y en a,
Mais moi, ce qui me frappe dans ce que tu as dit, c'est que, en fait, on parle d'expérimentation animale, mais c'est vraiment un bric-à-brac. C'est-à-dire que c'est y a 50 000 sortes d'expériences et certaines sont même pas vraiment des expériences mais sont juste des tests. Je veux dire bon ou l'enseignement, c'est pas des expériences, c'est une autre utilisation. C'est qu'en fait le terme expérimentation il recouvre. Je veux dire la réalité c'est que les animaux sont considérés comme un matériau et comme ils sont considérés comme un matériau, ils sont utilisés pour tout et n'importe quoi. Donc on peut pas parler de méthode substitutive, comme si on avait un objet précis à substituer. Je veux dire, il y a tout. C'est comme si on disait, on construit une maison. À quoi sert, par exemple, un certain matériau, le fer dans une maison? Bon, ça sert à faire des poutres, ça sert à faire des clous, ça sert à faire plein d'autres trucs. Si on n'avait pas de fer, comment est-ce qu'on construirait les maisons? On n'utiliserait peut-être pas de clous. Je veux dire, on va pas faire des clous en bois. On ferait les maisons autrement, mais on peut pas dire que à chaque objet, à chaque expérience, il y a un truc qui va le substituer. Et de toute façon, si on essaye de regarder là-dedans, on se perd dans tous les détails possibles et imaginables, et on dit des conneries parce que. Moi, il me semble que le problème, à part certaines méthodes précises, certaines choses précises sur lesquelles des batailles ont été menées, comme test de Dres ou des trucs comme ça, on peut dire ce test, il est utilisé, il est particulièrement symbolique, particulièrement peu, particulièrement barbare, et on peut montrer qu'il n'est pas utile, qu'il y a des choses substitutives ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, oui, mais parler de façon générale, même le modèle animal. Je veux dire, le modèle animal, c'est comme si on disait, les expériences sont faites pour étudier un modèle de maladie. Il y a des expériences qui sont un modèle de maladie, mais je pense pas que les expériences sur les poissons soient pour avoir un modèle animal de maladie. Je pense que c'est pour des études de biologie fondamentale sur comment fonctionne un poisson, sur quel est le développement, des études de compréhension de la vie, quoi.
Ce qui est pratiquement 35% des expériences, le côté tout à fait biologie fondamentale, justement.
Ah, d'accord.
Ou aussi... J'ai lu récemment que une grande partie, peut-être même la plus grande partie des animaux qui sont tués, sont tués uniquement pour obtenir des tissus. Des tissus pour faire différentes sortes d'expériences. C'est pas un modèle, c'est une source de matière première, simplement.
Et des tissus qui sont utilisés pour les méthodes dites alternatives, en plus. C'est-à-dire que les méthodes substitutives emploient des animaux. Ce qui est quelque chose que les associations de défense animale n'obligent pas. C'est-à-dire pour avoir des tissus qu'on va utiliser, on va utiliser des animaux, donc de toute façon on utilise des animaux aussi à la base.
Parfois je l'ai vu mis en avant, c'est-à-dire que ces expériences on peut les faire sur du foie de veau au lieu de les faire sur du. Je trouve que c'est effectivement problématique aussi, quoi.
Voilà, mais ça va tout à fait dans le sens que je dis, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que ça et que c'est trop simplifié. En plus on prend des pourcentages que je disais, toxicologie c'est 11%, et on va rester sur des choses qui sont relativement.
Enfin, même le terme expérimentation animale, que je préfère largement à vivisection, il est impropre d'une certaine façon. Et, grosso modo, c'est l'utilisation de l'animal comme matériau scientifique à tout faire, quoi.
Il y a aussi l'utilisation d'armes, on va utiliser une nouvelle cartouche par exemple dans l'armement pour voir l'impact sur la chair de l'animal. Alors est-ce qu'on peut appeler ça un modèle animal? Effectivement, on peut dire bah oui, on va voir l'impact, est-ce que la cartouche va arriver à s'ouvrir une fois qu'elle sera dans la chair, etc. Non mais tu as tout à fait raison, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est difficile de simplifier, de dire qu'on a un modèle animal alors qu'il y a tellement d'utilisations et que l'animal est utilisé à tellement de niveaux différents qu'on ne peut pas lui substituer systématiquement quelque chose. Parler de modèle animal, c'est aussi, bah, comme David dit, c'est par rapport à une maladie, alors que en fait, c'est aussi une part assez restreinte, hein, de l'expérimentation animale. Enfin, c'est le terme même expérimentation, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on expérimente un petit peu à tous les niveaux? C'est pour ça que c'est un sujet tellement large et finalement qui est trop simplifié quelque part.
Mais enfin, le problème, c'est de quand même se simplifier par le fait même que la question est de constater que
de
l'animal est utilisé à des milliers de...
Bien sûr, mais ça ne remet pas en cause le fait.
C'est surtout ça l'histoire.
Et ce qui revient, c'est le discours par rapport aux arguments contre l'expérimentation animale, qui est finalement très simpliste, et qui finalement, à mon avis, s'il est trop simpliste, ne peut pas non plus trouver un poids et une crédibilité. Et je crois qu'il ne trouve pas de crédibilité
actuellement. Pasteur a fait énormément d'expérimentations animales en plus sur les chiens.
Ouais.
Il y a eu, à l'époque de Pasteur, des réactions violentes de la part des gens contre ça. Pasteur réfutait ces réactions en disant que c'était indispensable de passer par des expériences pour mettre au point ces vaccins. C'est sûr que ça n'est pas simple.
Mais peut-être aussi que les sociétés anti-vivisectionnistes sont restées un petit peu à une image qui correspondait à une réalité du 19e siècle, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que elles sont restées à l'opposition à Pasteur ou à Claude Bernard, alors que les choses n'ont plus beaucoup de rapport avec ça. Et on s'échange des arguments, en fait, entre c'est fiable, c'est pas fiable, mais sur un objet qui n'existe plus ou qui est devenu extrêmement minoritaire dans la réalité de...
Donc je pense aussi qu'il y a un certain nombre d'utilisations d'animaux qui, de toute façon, ne font pas progresser la science tout le temps. Même pas, qui sont juste utilisés. Je trouve que c'est à la limite du sadisme. Moi, je connais, j'ai entendu parler... Enfin, j'avais un colocataire quand j'habitais au Québec qui faisait des expériences sur les animaux. Quand il me les décrivait et que je lui demandais à quoi ça sert, à la fin, il en arrivait à la conclusion, ça ne sert à rien.
Ouais.
Et il n'avait aucun scrupule à les faire. Enfin, à l'époque, je n'étais pas végétarien, je n'étais pas sensibilisé à la cause, mais ça m'a traîné dans la tête pendant des années, quoi. C'est, par exemple, ils inoculent... cette expérience, ça m'avait vraiment halluciné. C'était sur un singe. Ils inoculaient Alzheimer sur la moitié de son cerveau. Il devenait à moitié Alzheimer, c'est quelque chose qui correspond à rien, parce qu'il n'y a pas d'humains qui sont à moitié Alzheimer. Et pour montrer si ils arrivaient à un niveau de rééducation de de la moitié qui est à Alzheimer, par exemple, ils les enfermaient dans une cage où ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas se retourner. Et donc ils avaient la moitié valide à gauche et la bouffe à droite. Ils étaient là et puis ils ne pouvaient pas atteindre la bouffe. Et il remarquait que petit à petit, bah, la partie droite réussissait à s'habituer à aller chercher la bouffe. Et je dis, et après, qu'est-ce que ça fait comme application? Rien, parce que ça n'existe pas dans l'espèce humaine.
Mais en même temps, c'est intéressant.
Et qu'Alzheimer arrive généralement sur des sujets vieux et que là, c'est un sujet jeune.
Enfin, moi, je trouve
c'est vraiment une torture qui ne sert à rien.
Enfin, moi, je trouve que c'est un bon exemple, justement, de quelque chose. Toi, tu dis que ça ne sert à rien, parce que tu le vois dans le schéma, on fait cette expérience pour... obtenir une méthode de guérison d'une chose précise. Moi, si je fais abstraction de la sensibilité du singe, moi je trouve que c'est une expérience très intéressante. Je veux dire qu'elle permet de connaître la possibilité pour une moitié du cerveau de se substituer à l'autre dans la coordination des mouvements. Enfin, je veux dire, je pense que ça doit être un minimum pour ça. Enfin, je ne sais pas si elle est très intéressante, mais qu'elle peut être intéressante. Si c'était fait sur des êtres qui ne sont pas sensibles, je dirais c'est... Ça fait justifier.
Non, mais peut-être, pour aller un petit peu plus loin que là où je suis allé, c'est peut-être que son directeur de recherche, lui, il trouve un intérêt et va à long terme avoir un progrès de connaissances scientifiques par rapport à ça. peut-être que lui, il arrivera à me prouver ce que l'étudiant n'arrivait pas à me prouver. Mais je pense, nous, là où on a situé, c'est quand même de se rendre compte que cet étudiant-là, qui lui ne voit aucun intérêt à cette expérience, la conduit quand même sans aucun scrupule. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler pour. Enfin, ça rejoint tes arguments. C'est-à-dire plutôt une sensibilisation sur la sensibilité animale. Peut-être qu'on devrait. On cible le grand public pour faire évoluer les lois, mais aussi pour qu'il y ait une lutte interne, peut-être aller nous vers les étudiants en première année, en deuxième année de bio, qui sont susceptibles d'être confrontés à ça, leur dire qu'on sera derrière pour les soutenir s'il y en a qui refusent de participer à certaines expériences en cours, pour qu'il y ait un espèce de mouvement à l'intérieur des gens qui sont qui utilisent les animaux dans la recherche. Quoi. Aucun mouvement de refus de ces gens-là, parce qu'en fait, lui, il ne voit pas le problème, quoi.
Pour ce mouvement, ces gens, il faut effectivement s'appuyer sur les interrogations des gens qui sont à l'intérieur, même qu'elles soient justes ou non théoriquement, mais ceux qui se posent vraiment des questions et qui doutent de la validité de leur action à un titre ou à un autre, c'est eux qu'il faut soutenir, et c'est par là...
Parce qu'eux, ils auront une efficacité immédiate, quoi.
C'est par là qu'il faut entrer, en effet, dans le
Et qu'à un moment, pour être crédible, il faut qu'on ait des gens du milieu qui soient avec nous, comme Sarah.
Des arguments,
c'est ça.
Oui. Puis la première utilité, c'est que cet étudiant-là apprend à mener ce genre d'expérience. Ouais. Et apprend que l'animal est un modèle scientifique sur lequel on peut faire n'importe quoi.
Donc si
ça, c'est le principe. En deux gambio, c'est un truc que tu ne peux pas l'éviter en France, il n'y a même pas d'objection de conscience, des choses comme ça. Voilà, donc, même individuellement, tu n'as pas le droit de le refuser.
Déjà créer une objection de conscience, aider à créer cette objection.
Et que tu apprends quelque chose, c'est pas vrai. Voilà, justement, tu apprends.
Mais ce que David dit intéressant, je trouve, c'est de ne pas voir la maladie d'Alzheimer en tant que fait en soi, mais aussi finalement l'expérience sur le cerveau lui-même. Il faut voir aussi que beaucoup d'expériences sont utilisées non pas comme modèle pour l'animal, mais aussi pour la médecine vétérinaire. Et ça, c'est aussi quelque chose souvent qui est occulté, je veux dire. Donc le modèle devient fiable parce que c'est pour l'animal lui-même. Et ça, il ne faut pas non plus.
Pour la connaissance du vivant, enfin pour la connaissance
vivant,
d'un modèle avec un cerveau.
Voilà, et c'est vrai que c'est pas tant la maladie d'Alzheimer qui utilise que la compréhension du cerveau. Donc ça montre que c'est vachement plus complexe et que de simplifier finalement, c'est. Si on veut aller sur ce terrain scientifique, quoi. Ça, c'est le danger. Hein.
On a vu dimanche matin l'expérimentation dans le film de Bruno sur les tests sur le rognage des dents. Un modèle, ils utilisaient des cochons comme modèle pour les autres cochons. Je vais faire une étude sur le bien-être animal.
Donc on peut parler de modèle animal là.
Non, mais j'ai pas de continuer de couper les queues de cochons et d'imer les dents alors qu'ils étaient arrivés à peu près, ils étaient convaincus de l'utilité de la chose.
D'autant plus que c'était les dents de lait.
Oui, qu'en plus, ils ont repoussé, enfin, ça n'avait ni queue ni tête, on veut dire. Et ça continuait à être repoussé, tout ça, c'était simplement une pratique de puissance et de sadisme.
Mais c'est pareil que ce que je disais sur les sites, je pense qu'il ne faut pas voir des ça c'est souvent ce qu'on entend, les méchants expérimentateurs, vivisecteurs qui sont sadiques et d'un côté les gentils défenseurs des animaux. C'est plus compliqué que ça aussi, je veux dire, il y a des gens qui entrent dans un processus de scientifique qui rentrent dans une sorte de piège ou d'inconscience par rapport à ça, mais ce ne sont pas des sadiques non plus. Ils perdent toute sensibilité, ils ne voient plus.
La question, c'est comment éveiller la conscience. Parce que dans les écoles vétérinaires, enfin, pour en avoir discuté avec des jeunes étudiants, il y a des gens qui sont très sans, enfin, qui sont là pour soigner des animaux qui pètent dans la soie et qui, à côté de ça, ont justement ces laboratoires de chiens. Et donc, il y a des gens qui vivent douloureusement cette contradiction et d'autres qui se posent peut-être même pas la question, quoi, parce qu'ils en font leur métier, parce qu'ils en font leur gagne-pain. L'impasse, elle est là aussi, quoi.
C'est comme le chasseur qui a deux chiens, un chien attaché dans une cage en béton et puis le petit caniche pour la dame pour qu'il accompagne.
Mais là, le problème que tu poses me paraît, moi, le problème fondamental, c'est la conscience.
Bah oui, la conscience.
Et que c'est plus si on est dans une société qui est totalement, je dirais, déspiritualisée et tout. Et c'est le problème de fond, à mon avis, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans notre société maintenant matérielle de consommateur? L'idée, ce serait plutôt de respiritualiser le truc, c'est-à-dire reprendre une connexion et se relier au vivant, etc. Mais bon, mais ça me paraît, moi, la clé. Mais bon,
non, moi, je suis pas d'accord avec ton terme spiritualisé.
C'est un mot qui, de toute façon, qui est toujours galvaudé.
Oui, mais enfin, on peut pas. Moi, je trouve que si on cherche tout le temps des lignes de partage, on n'arrêtera pas de se diviser.
Non,
il faut lâcher ses problèmes.
Juste.
Conscience, esprit, guillemets, le grand rire de l'univers.
Je sais pas, et l'éthique, pour moi, ça regroupe tout, quoi.
Non, mais éthique, c'est au-delà du mental. C'est plus rester dans le mental. Là, c'est aller au-delà du mental pour finalement se retrouver aussi relié par rapport à la nature, par rapport au côté. comme tu vois les peuples dits racines ou alors les Indiens ou comme tous les gens qui ont ce rapport avec
ça dépend parce que les petites piqûres apparemment c'était pas mal hein, c'est pas mal comme voile.
Moi j'ai pas eu besoin d'en passer par là, j'en suis passé par l'intellect. Enfin, moi ça fait pas longtemps que je connais cette pensée antispéciste, c'est en lisant les bouquins de temps imparti quoi. Et c'est justement vachement intellectuel quoi. Qu'est-ce qui m'a permis de qu'est-ce qui me permet en ce moment, je peux pas dire, c'est vraiment très récent, mais de me rendre compte, en fait, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est l'argumentation de Chipruki qui explique, c'est dans le livre sur Darwin, une révolution à venir, qui explique qu'en fait, l'espèce, c'est pas quelque chose de scientifiquement valable, c'est des espèces, ça n'existe pas. En fait, j'ai vraiment compris, à partir de là, oh mais oui, mais alors, ça m'a permis de me relier à la sensibilité d'un animal. En fait, voilà, moi, mon truc à moi, en tout cas, c'est intellectuel. C'est pas de me relier à
Mais t'as parlé de te relier à la sensibilité de l'animal, quand même.
Oui, mais me relier physiquement, je veux dire, comme me relier dans le sens où ce que moi je ressens, un animal peut le ressentir, en fait. Pas me relier d'une façon, comme tu dis, spirituelle, enfin moi aussi,
c'est tellement... Le mot spirituel, c'est avec des guillemets, parce que c'est tellement...
Mais il y a une connotation très
forte. Il y a une connotation vachement forte, je pense que de toute façon, quand tu l'utilises, ça charge.
Mais je voulais pas l'utiliser, c'est venu comme ça.
Non, mais je pense pas que ce soit le sujet...
Non, c'était une parenthèse, on va continuer.
Non, mais ça peut être une voix aussi.
Attends, ça serait bien que chacun parle, parce que si ça converge, personne ne comprend rien.
Parce que là, tout d'un coup, t'as mis de toi dans ce discours-là.
Non, j'ai rebondi par rapport à ce que tu dis, mais je pense que c'est le... Voilà. Mais souvent, dans ton discours, il y a une partie de soi, c'est pour ça qu'après, on partage.
Hein. Bah, tu mets de toi, dis donc.
Fallait pas me demander de venir. Bon, je vais continuer. Donc, je vais prendre un autre côté, c'est les argumentaires de, j'allais dire, la filière des expérimentateurs, des chercheurs. Donc, bien sûr que le modèle animal est fiable, que c'est une utilité, etc. Mais pour rassurer le public, donc, ils ont appliqué depuis 1957 la règle des 3 R, donc remplacer l'expérimentation animale chaque fois que c'est possible, réduire le nombre d'animaux utilisés et raffiner les méthodes expérimentales de façon à supprimer la douleur et l'inconfort. Voilà, donc les remplacer, réduire, raffiner, donc c'est la méthode des 3 R qui permet de donner une image un petit peu rassurante pour le public qui s'intéresse à cet aspect des choses. Remplacer, réduire et raffiner.
Raffiner, c'est un terme très choquant.
Oui.
C'est un terme qui est un camp encore dans les années 40 de certains docteurs, je ne sais plus, Mengele, c'est ça, qui était très raffiné dans ce sens.
Bon, ce qu'il faut voir, c'est aussi qu'il y a tout ça, mais en même temps, il n'y a pas de partage des données. Et le problème, à mon avis, un des problèmes fondamentaux est là, c'est-à-dire qu'il y a des expériences qui vont être faites par une entreprise privée qui va les garder pour soi, qui ne va pas les partager avec quelqu'un d'autre qui va faire exactement les mêmes expériences. Et l'expérimentation animale survit grâce à ça, mais on en reparlera plus tard avec le projet REACH notamment. Merci. Et souvent, notamment, les expérimentateurs rajoutent un troisième R pour rassurer le public, c'est l'idée de respect de l'animal et de responsabilité des expérimentateurs, donc ça fait 5 R, et qui va donc aller vers la création des comités d'éthique, puisque maintenant il y a eu l'idée de construire des comités d'éthique départementales. Par rapport à l'expérimentation animale, donc où vont être systématiquement validées, ça c'est très rigolo, vont être systématiquement validées toutes les expériences qui vont être faites. Donc vous voulez utiliser par exemple un chien pour faire une expérience, ou alors le singe par rapport à... Mais le singe, on montre un chien. va utiliser le singe par rapport à la maladie d'Alzheimer. Ils vont demander au comité éthique une validation de leur expérience pour montrer l'utilité, etc. Donc, le problème, quand on creuse un peu, c'est que les gens qui vont valider, ils sont à la fois juges et partis, c'est-à-dire que ce sont des gens de l'INERA qui vont dire oui au CNRS. Quand le CNRS va demander, ça va être l'INSERM qui va leur dire, donc finalement chacun va s'envoyer l'ascenseur, et on a un petit peu un système où finalement toutes les expériences vont être validées, mais il y a ce comité d'éthique avec tout le terme, Claire, tu dis, d'éthique, qui est galvaudé aussi, puisqu'on va l'utiliser un petit peu à toutes les sauces. Voilà.
Il n'y a pas de représentants d'associations ou de personnes extérieures dans ces comités.
Au niveau national, si, ils ont pris des personnes qui étaient... J'avais vu, c'était des gens qui n'étaient pas du tout... qui n'étaient pas abolitionnistes du tout. Mais il y a des gens représentatifs. Bah, c'était notamment, l'OPAL, l'œuvre de protection des animaux de laboratoire. Voilà, donc on avait une sorte de OBA bis pour les animaux de laboratoire, qui est fait en fait d'expérimentateurs, mais sous une association dite de protection animale, l'OPAL, œuvre de protection des animaux de laboratoire. Donc comme ça, ils avaient leurs 2 ou 3 personnes avec crédit.
Si tu peux faire la recherche.
Voilà. Et autre problème, c'est que quand on creuse, ils disent oui, et puis il y a des contrôles, etc. Enfin, c'est, là, je vous donne l'exemple alsacien qui est très rigolo. Et le monsieur est interdit à la conférence, il a des animaux ne souffrent pas, il y a des contrôles et tout ça. Et j'ai appelé ma voisine, j'ai dit, pose-lui cette question. Elle lui a posé la question, elle a dit, mais et les inspecteurs, vous en avez? Ah non, on n'a pas d'inspecteur, ou on a un inspecteur pour toute l'Alsace, donc en fait, il ne peut jamais faire de contrôle parce qu'il a plein d'autres contrôles. Il doit... Donc en gros, il y a des inspecteurs, il y a des inspections obligatoires, mais il n'y a pas de. Sur le terrain, il n'y a aucune inspection, aucun contrôle de quoi que ce soit, et en plus, ils doivent sonner avant d'entrer. Donc en gros.
En plus, excuse-moi de te couper, Franck, mais le docteur Rice m'avait dit une fois qu'il y avait l'animalerie de surface pour les contrôles et qu'il y avait souvent une animalerie dans les caves. Celle-là, ça charcutait pas mal, quoi, qu'on ne montrait pas aux inspecteurs le moment venu.
C'est possible. Ouais.
C'est Claude Rice qui m'a dit ça.
Bah, s'il le dit.
Il y a quand même une chose, parce que je relève ce qui a été dit tout à l'heure. Catégorisé du côté du sadisme, etc. Bien sûr que c'est complètement. C'est nul, quoi. Bon, bref. Mais il y a quand même une rupture de quelque chose qui se fait, parce que les gens qui font des expériences, enfin, j'ai lu certains articles, ne parlent jamais d'animaux, ils parlent de matériel de laboratoire. Donc ça indique bien quelque chose. Ça indique qu'à partir du moment, les mots, les termes entraînent aussi une position, une posture.
J'allais y venir, justement. Tout à fait. Non, mais tout à fait, oui. Il y a un nouvel arrêté qui est sorti, mais on a parlé, j'ai pas réussi à le trouver, où il parle effectivement, il y a même le mot, c'est sur l'expérimentation animale, on parle plus d'animal du tout.
C'est ça.
Tout à fait, ouais, c'est une façon effectivement.
Et on sait tous en nous, comme c'est facile de faire rupture avec quelque chose, aidé par les mots en ça, par exemple.
Et c'est pour ça que la conscience peut être un des outils pour redonner le statut de sujet et pas d'objet à la
vie.
C'est pour ça, et moi quand je parle de conscience, je veux juste dire ça, c'est pas de spiritualité dogmatique ou une sauce à la con. Une conscience, c'est quelque chose de très simple, c'est marcher dans la forêt, basta, et sentir, c'est très simple, la conscience. Voilà, mais maintenant,
moi, il me semble aussi que, c'est, puisqu'on parle de ça, c'est intéressant de voir que ce qui se passe sur ce terrain-là de l'expérimentation animale, c'est-à-dire l'élaboration d'un vocabulaire qui permet de maîtriser, de déshumaniser, enfin, on dit ça comme on veut, mais de déconnecter, de constituer un appareil théorique qui permette de se déconnecter de tout ce qu'on est soi-même et du fait qu'on appartient à une espèce, à une vie, enfin bref, qu'on appartient à un ensemble, couper tout ça, se réfugier dans une démarche intellectuelle, et non seulement pour être dans sa tête, mais aussi parce que c'est une position de pouvoir, et c'est par excellence la position de pouvoir qui aura toutes les justifications. Et que le sadisme, il doit être rattaché absolument, essentiellement, à tous les étages, y compris aux étages les plus élaborés, avec toutes les justifications intellectuel, scientifique, il doit être rattaché au désir fondamental de domination et de pouvoir. Et donc, politiquement, là, c'est un enjeu qu'on retrouve aussi bien dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, etc. Partout où il est question d'établir, où il y a des pôles qui surgissent de gens qui ont envie de constituer des modèles théoriques, de ceci, de cela, pour asseoir un pouvoir. Et donc, il procède toujours en sectionnant, effectivement, en mettant des gants d'asepsie et en sectionnant tous les liens qui les rattachent, eux, en tant que simples vivants, par exemple, membres d'une communauté, à ceux qu'ils entendent dominer.
Mais je pense pas que ce soit un sadisme conscience.
Ah non, c'est pas conscience. Voilà, mais c'est vraiment, on peut dire que c'est la racine, enfin, en termes psychologiques. Ou métapsychologique, quand on réfléchit et quand on analyse ce que c'est que le sadisme, il est rattaché à la phase infantile dans laquelle l'enfant prend possession de son domaine, de son propre corps, puis ensuite du corps des autres. Et c'est une phase constitutive de notre édification en tant que sujet complet, quoi, avec
les grands différents. C'est dans la même phase, où apparaît le nom.
Oui, bien sûr.
N-O-N et non N-O-M.
Bien sûr.
Le mot apparaît entre 2 et 4 ans au moment où il y a la question du pouvoir.
Bien sûr. Mais c'est important.
Du sphincter et compagnie.
C'est pour ça que c'est aussi indispensable pour nous de comprendre que on peut à la fois lutter d'un point de vue. D'un point de vue ou d'un autre, contre ce qui nous paraît intolérable, mais en même temps, ça nous renvoie forcément à quelque chose qui est inhérent à notre constitution de sujet humain. Et donc c'est délicat et ça demande beaucoup de lucidité pour démêler les enjeux de pouvoir, etc. Et la manière dont on se place là-dedans.
Ça montre encore plus la complexité de la chose.
Parce que oui, parce que les enjeux de pouvoir, ils nous concernent aussi tous.
C'est pas si complexe, parce que s'il y avait une connexion avec, effectivement, Claire parlait de l'Inde, je trouve que c'est... On a des choses à apprendre, nous, de ça. Et eux, de nous. Je connais pas le mouvement Vegetarian, mais est-ce qu'il y a moyen d'inviter des personnes qui travaillent là-bas, des Indiens ? Parce que nous, une autre façon de voir les choses, une autre façon de lutter. Nous, on est très, alors ça y va, de l'intellectuel et du mental, et c'est très important. On lutte sur le terrain de ceux qui nous agressent, j'entends bien. Mais pourquoi est-ce qu'on n'internationaliserait pas cette affaire en essayant de tirer une substance comme ça qui existe ailleurs et qui donne Gandhi à toutes ses preuves? Bon, on peut peut-être utiliser. Moi, j'aimerais connaître des végétariens activistes indiens.
Ce qui m'avait marqué, justement,
j'ai un contact.
Parfait. Mais, alors il faut l'inviter l'année prochaine aussi. Voilà.
Mais il se réfère à la pensée intellectuelle occidentale.
Bon, on va inviter son frère. Ce sera son cousin, sa soeur peut-être, un peu plus femme aussi.
Il est marqué à Strasbourg était venu des Indiens Kogis, donc c'est un petit peu des. C'est comme si vous voyez d'un seul coup débarquer des Mayas. Enfin, ce sont des gens complètement qui viennent de notre temps et sont arrivés. Et nous quand on parle des Indiens Kogis qui viennent d'Amérique centrale. Et qui on est en train de prendre les terrains, enfin c'est assez...
Les Amérindiens.
Amérique centrale.
Oui, d'accord, pas des Indiens d'Inde, mais de
Colombie. Oui, Amérique centrale. Et quand on parle du zoo et tout ça, même des zoos les plus comme le zoo de Vincennes, choses comme ça, on a en face le public qui a quand même du mal à... Je prends cet exemple parce que c'est par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser. Les gens ont du mal quand même à suivre l'argumentaire, etc. Eux, ils sont arrivés et en fait, ils ont été emmenés par les gens qui les ont invités au zoo de Thoiry. Je ne sais pas si vous voyez Thoiry. Donc c'est, vous allez en voiture dans le zoo, donc c'est le zoo, le parc animalier. Et ils ont dit, et finalement pratiquement tout le public, enfin même tout le public a suivi, parce qu'ils l'ont dit, mais avec une telle... pour ça, quand, avec une telle... c'était pas du tout au niveau de l'intellect ou quoi que ce soit, mais au niveau de la... Non, même pas de l'émotion, c'est de l'être profond vraiment qui parle. Il dit, mais pourquoi vous mettez ces animaux enfermés, etc. Et il y a une certaine connexion, et c'est ça que quand je parle de spiritualité ou choses comme ça, c'est qu'il y a une connexion, et finalement, tout le monde en face, et Théodore Mounou avait un peu de ça, c'est-à-dire tout le monde en face dit, bah oui, effectivement. Et ils ont parlé de végétarisme et tout, et tout le public qui aurait été, qui était vraiment les gens de Strasbourg lambda, tout le monde a dit, bah oui, ils ont raison. Il n'y a même pas le côté intellectuel, comme on a l'habitude, le côté cartésien, choses comme ça, parce qu'il y a une respiration, quelque chose, je ne sais pas comment l'exprimer, mais une profondeur que Mounou a, que je pense Rabhi aussi a d'une certaine manière. Et où finalement, quoi qu'ils disent, effectivement, c'est pour ça que ces gens sont suivis, parce que quoi qu'ils disent, il y a quelque chose qui transparaît, qui va toucher le je sais pas quel mot utiliser, alors le profond de la personne.
Ouais,
tout
ça se complète.
Tu ne penses pas que cette réaction du public occidental face à eux, le fait que personne, y compris les plus grands marques, etc., public, n'ose les contredire, ça ne vient pas simplement d'une espèce de culpabilité et du culte du gentil sauvage qui date du
19e
siècle et qu'on a complètement tué. Non, mais je ne doute pas qu'ils soient sages, mais ce que je veux dire, c'est. Moi, je me vois mal face à eux, même s'ils disaient un truc.
Ils sont plus sages que Bandit, en tout cas.
Leur dire que vous êtes des cons, quoi.
Ouais.
Mes ancêtres les ont décimés. Ils sont là, ils vivent dans une certaine harmonie que j'ai pas, machin. Même si je pense pas comme eux, j'irai pas leur balancer à la gueule, vous êtes des cons.
En plus, on a une culpabilité d'ex-colonialiste et tout ça.
Voilà, la culpabilité d'ex-colonialiste et compagnie. Et de dominateurs économiques actuels, on a cette culpabilité-là qui fait que.
Oui, mais on peut aussi utiliser la culpabilité, c'est pas défendu.
Non, mais
je pense que c'est même utile. Et que le fait de pouvoir se sentir coupable, ou pas d'ailleurs, parce que moi je ne suis pas pour mettre tout le monde dans un bain général de culpabilité, c'est pas non plus du tout ma conception, je pense que c'est pas du tout une bonne chose. Mais dans certains cas, se sentir coupable, pouvoir avoir honte, c'est des sentiments qui sont heureusement présents en nous et qui doivent nous aider à pouvoir évoluer. Enfin, il me semble.
Non mais j'entends ce que tu dis, mais je crois pas, je le pense pas. Quand on voit des gens comme Théodore Monod, je veux dire, il aurait pu être contredit, et en fait c'était quelqu'un qui n'était jamais contredit, parce qu'il avait ce côté aussi, où il touche quelque chose, à mon avis, qui existe en chacun de nous, et c'est pas hors du sujet finalement.
Enfin, je pense que c'est un petit peu hors du sujet, mais moi j'aurais envie de dire à propos des gens qui en parlant, touchent quelque chose de profond en nous, que d'une certaine façon, c'est comme les scientifiques, c'est-à-dire qu'on choisit les scientifiques qui nous arrangent, qui disent un truc qui nous arrange. Des gens qui touchent des choses profondes en nous, il y a des gens qui sont super, il y a des salophilies qui savent trouver, toucher la corde sensible en nous pour amener une masse entière de population à se lever et à massacrer la population d'en face. Enfin, je veux dire, le fait même de toucher des choses profondes en quelqu'un...
C'est-à-dire que, disons, c'est pas défini d'une façon suffisamment claire. Hein, je crois que quand on dit ça, c'est encore trop obscur. Et qu'effectivement, avant d'arriver à faire résonner une note claire, qu'on puisse tous entendre, il y aurait beaucoup à élaborer, sans doute.
Ah, ben, je sais pas, Milosevic, il faisait résonner une note claire quand il disait il faut reconquérir le territoire de la Serbie.
C'est pas à ça que je pensais quand
non,
je
mais, disais une note claire. C'est-à-dire que... Moi, je fais pas forcément confiance à mes aux choses que ça touche toujours en moi, quoi.
C'est-à-dire... Oui, non, mais c'est vrai, on doit aussi penser ça, c'est sûr.
Ce que je voulais toucher par là, c'est que ce qui me paraît dangereux, c'est que quand on est que dans un raisonnement mental ou philosophique, etc., c'est qu'à partir du moment où on arrive à mettre un contre-argumentaire, ça peut carrément remettre en cause le fait de respecter un animal ou respecter la vie en tant que telle. À partir du moment où on doit tout démontrer, la démonstration, moi, me paraît toujours hyper dangereuse. Parce que si on démontre le contraire, ça veut dire que la vie elle-même peut être complètement
Qui que ce soit.
Et moi, je pense qu'il faut aller, mais ça c'est personnel, je pense qu'il faut aller au-delà d'une démonstration qui reste dans la masturbation intellectuelle, à mon sens, où effectivement, il y a des choses qui sont à un autre niveau. Mais c'est mon ressenti, et plus j'avance, plus j'ai ce ressenti. Voilà.
Ça, c'est une pratique.
Parce qu'on peut toujours faire une contre-démonstration, un contre-argumentaire, et c'est ce qui se passe. Peter Singer m'intéresse particulièrement et tout ça. Mais je veux dire, à partir du moment où on arrive à le contredire, finalement, on arrive à contredire que l'animal a le droit d'exister ou le droit de vivre d'une certaine manière. Et on a vu hier, justement, à travers des cartes, à travers Maupertuis, etc., qu'on arrive finalement à démontrer toujours des choses qui nous arrangent aussi quelque part.
Il n'y a pas de démonstration définitive. Il y a toujours quelqu'un de très brillant qui va faire une démonstration définitive pour aplatir l'autre.
Et que le respect de la vie...
C'est un truc de combat. Donc il y aura toujours des intelligences pour justifier les pires choses, on en a toujours vu, des intelligences extrêmement brillantes.
Tout est justifié.
Toujours il y a une...
Ça va dans le sens de la séparation, alors que la conscience va dans le sens de la réunion.
Tout à fait.
Je suis désolée, moi je parlerai de religion sans aucun scrupule, parce que je ne fais pas référence au dogme.
Bien sûr.
Je pense que l'intellectuel est important, mais c'est une des couleurs de la pensée qui fait qu'on doit se toucher. Moi, je me réfère uniquement à la pensée d'un très grand sage, qui est vraiment mon gourou, qui est le petit-fils d'Hélène, qui a 2 ans. Quel âge il a, le petit-fils d'Hélène?
Je ne connais pas, je n'ai pas ce bonheur.
Françoise, il doit avoir 1 an et demi, 2 ans. Que Hélène a emmené à Pauvre voir son grand sage à l'enfant. Ah, je l'adore celui-là. Elle l'emmène à Pauvre, et le gamin d'un an et demi, 2 ans, regarde les animaux, il dit, mais pourquoi ils sont en prison? Voilà. Moi, c'est tout, ça part de là. Et c'est pas que le cœur, la fameuse émotivité qu'il faut absolument condamner. Ah, alors, va dire à tout Satanas.
Oui,
moi, on peut tout condamner, c'est tellement personnel. Moi, je condamnerais juste l'intellectualisme à tout point. Il ne fait que séparer, il ne fait que ergoter pendant des années de l'univers. Et nous, si on rentre dans ce jeu-là, on est complètement pris au jeu, on est complètement manipulé, on fait la même chose que sur le casse, on sépare. C'est diable, quoi.
Moi, ce que je pourrais dire par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est que c'est une argumentation scientifique, en fait, en tout cas, heureusement que j'ai pris comme sérieux, scientifique, qui m'a permis de me dire, ça s'est pas fait une fois, mais tout d'un coup, ah, mais il y a un truc qui s'est... Mais il m'empêche que si maintenant, il y avait un scientifique super balèze qui venait de me démontrer qu'en réalité, les espèces, elles existent, ben, je ferai pas marche arrière.
Ah oui, ça c'est vrai.
Parce qu'en fait, ça m'a touché, donc maintenant.
Ça a débloqué quelque chose.
Voilà, c'est ça.
Un verrou qui a sauté.
C'est pas parce qu'on va me démontrer maintenant qu'en fait, scientifiquement, si en fait les espèces existent, que le chien il va devenir tout d'un coup un sens.
C'est un chemin qui est fait.
C'est ça, voilà.
Mais par rapport aussi à l'aspect intellectuel, enfin moi je partage tout à fait ce que dit, je sais pas comment ça s'appelle. L'idée de séparation et d'union, effectivement, mais si on arrive à démontrer effectivement que l'expérimentation animale est inutile et que la personne est convaincue, à côté elle pourra aller manger du foie gras parce qu'elle ne sera pas convaincue de ça. Alors que si on touche quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque part, je suis désolé d'utiliser ce mot qui paraît toujours galvaudé, mais c'est ouvrir l'amour et le cœur des personnes, la compassion qui est beaucoup plus large.
Enfin, moi, je me sens très mal à l'aise dans cette discussion.
Oui, bon, on va continuer.
J'ai l'impression que sous couvert de. Bon, d'élargir les choses au sentiment, d'élargir les choses à l'émotion. En fait, d'abord...
Pas l'émotion.
À l'émotion ou aux choses qui sont profondes en nous, je sais pas quoi. on est en train de faire d'abord une opposition entre l'intellectuel et le... Moi, je crois pas que les gens qui font la masturbation intellectuelle ou qui font des raisonnements ou des choses comme ça, enfin, ni Peter Singer, ni personne parmi ceux qui ont développé une réflexion antispéciste en France, n'a jamais mis de côté la réalité de l'émotion, la réalité de tout un tas de choses au niveau émotionnel et au niveau, je dirais, peut-être du ressenti de soi-même, au niveau de... Enfin, je ne sais pas quel terme il faut employer, mais on n'a jamais dit, personne n'a jamais dit que ces choses-là n'existaient pas, que ces choses-là n'avaient pas de signification. Je dirais simplement que par rapport à la question des animaux, on n'a aucune raison non plus de dire que... qu'il faut se contenter simplement du feeling immédiat, ou il faut se contenter de choses qui nous paraissent justes, qui nous paraissent... C'est-à-dire que moi, je peux ressentir, par exemple, qu'un arbre, c'est un être vivant, c'est un être qui ressent des choses, c'est un être vieux et sage, etc. Je veux dire qu'il y a aussi toute une culture qui me donne ce sentiment-là, qui me donne envie de le ressentir, qui me donne envie, en plus, parce que ça a une forme un peu debout, d'y voir peut-être des choses qui me rassurent ou je sais pas quoi, je peux le ressentir, et ensuite je peux dire c'est des choses profondes en moi, et ensuite j'ai aussi envie d'avoir une certaine critique de ça à un niveau intellectuel, et j'ai pas non plus envie de dire, enfin je veux dire, moi j'ai le sentiment que quand on me dit qu'il faut ressentir immédiatement et pas, et que quand on parle mal du côté intellectuel des choses, moi j'ai l'impression qu'on cherche à me mutiler d'une certaine façon, quoi. On cherche à me mutiler simplement de ma capacité aussi de dire que 2 et 2 font 4, de dire que oui, et éventuellement d'arriver à des conclusions qui peuvent me paraître aberrantes par ailleurs.
Mais c'est pas antinomique.
Mais ça peut être antinomique. Non, mais je veux dire qu'il peut. Oui, mais il peut aussi y avoir des contradictions à un certain moment. Je veux dire, tu disais, Franck, que peut-être qu'un raisonnement, il nous amènera à penser que c'est pas important la souffrance des animaux, ou que les animaux ne souffrent pas, ou qu'avec des raisonnements, on peut démontrer tout et n'importe quoi. Mais si effectivement, il y a un raisonnement qui me démontre que les animaux ne souffrent pas, ou que les animaux souffrent mais que ça n'a aucune importance, eh bien moi je vais le prendre au sérieux, quoi. Je vais peut-être pas me mettre à manger de la viande du jour au lendemain, mais je vais quand même me dire qu'il y a un problème, il y a un conflit entre deux parties de moi. Je vais pas simplement me dire, ah ben ça c'est les raisonnements, ils peuvent démontrer tout et n'importe quoi, je l'écarte et je continue à suivre mon sentiment. Parce que mon sentiment pur, en écartant la raison, ben, dans tant de domaines, je sais très bien qu'il me trompe.
Mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'il y a la part, effectivement, où de toute façon on est des êtres avec un intellect, mais aussi d'avoir un autre niveau de perception. Mais en fait, je voulais pas du tout parler de ça.
Non, mais de la même façon que, je veux dire, hier, on a vu qu'un certain nombre de personnes au XVIIIe siècle,
ouais,
au XVIIe et XVIIIe siècle, ont pointé le fait qu'entre la perception, enfin la sensibilité et la pensée, il n'y a pas une différence qui soit de nature aussi évidente que ça. Je veux dire que j'ai l'impression que dans le discours que vous faites là depuis un quart d'heure, vous reproduisez cette espèce d'opposition. Je veux dire que...
Bienvenue à toi, tu sais.
Non, mais je veux dire, quand j'avais 8 ans et que j'ai fait le raisonnement, c'était un raisonnement de dire que les animaux souffrent et qu'il n'y a aucune raison de considérer que leur souffrance est moins importante. C'était un raisonnement. Moi je ne le ressentais pas, la souffrance des cochons. Je la ressentais pas, et c'est pas quelque chose qui me touchait directement, et la souffrance y compris des insectes ou des choses comme ça. Enfin, faut arrêter de dire que c'est...
C'est super, parce que du coup tu arrives au même raisonnement que moi, mais d'une façon différente.
Bah oui.
C'est pour ça que c'est pas antinomique.
Non, mais c'est pas antinomique, moi, c'est ce que je dis.
Ça a été abominable, j'ai passé 8 heures que tu dans une grange que je n'aime pas, et depuis j'ai fait la bouffée de viande.
Non, mais à
j'ai 39 ans. Toi, tu arrives au même résultat que moi, mais par contre, intellectuel. C'est normal, moi je suis une femme, toi t'es un homme. On peut peut-être voir les choses comme ça. L'important, c'est que toi et moi aujourd'hui, on en est au même stade de constatation. pourquoi est-ce que tu veux oblitérer d'autres moyens, d'autres échelles pour parvenir au même endroit?
Non, mais je ne veux pas les oblitérer. C'était, je veux dire, le discours, il était...
C'est pas un discours.
Bah, le discours depuis tout à l'heure, il était justement qu'il y a quelque chose de plus profond que la raison.
Mais c'est comme le sexisme. Moi, ça me fait chier parce que c'est un débat qui est quand même parallèle, notamment avant. Maintenant, si heureusement qu'on s'améliore sur ce sujet. Moi, ça me fait chier d'avoir quelque part un raisonnement intellectuel de me dire, bah oui, les femmes vont souffrir comme moi, donc il ne faudrait pas les faire souffrir. Alors que c'est quelque chose qui est largement au-dessus. Je veux dire, c'est au niveau d'une perception, d'une communauté, autant avec un enfant que, enfin, c'est la même chose.
Pourquoi c'est au-dessus?
Pourquoi rentrer dans un côté intellectuel s'il y a un intellectuel qui va me prouver que les femmes, effectivement, souffrent moins, choses comme ça?
C'est pas l'intellect
qui va me faire ça. C'est parce que je ressens une communauté, être reliée avec les femmes, avec l'univers autour de moi.
Oui, non, mais voilà, c'est là qu'on n'est pas d'accord.
Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intellectuellement ultra musclés.
Non, mais c'est peut-être pas... C'est pas grave qu'on ne soit pas d'accord, mais...
Eh ben voilà, c'est pas grave qu'on soit... Le sujet n'est pas grave.
De toute façon, je voulais pas...
Ok, je vais le doigt, on peut dire que c'est mon tour, parce qu'en fait, on avait dit il y a longtemps, au début, qu'on pouvait faire des petits groupes. Là, j'ai l'impression que vous êtes quatre à parler, que moi, j'ai des choses à dire, que j'arrive pas à le dire en grand groupe. Et on est parti de ça au début des estivales, on s'est dit peut-être qu'on ferait des petits groupes, au final on l'a jamais proposé, et là il se passe que c'est cool vous écouter en diagonale. Mais...
Tu prends en bandit?
Non mais je sais pas, peut-être que toi, le truc c'est qu'on s'est mis à parler alors que toi t'étais en train de faire des exposés, donc c'est peut-être pas facile de te séparer maintenant.
Pour qu'ils soient dans ton groupe.
Non mais justement, moi je trouve que c'est effectivement un sujet très intéressant, hein, que je connais depuis des années, mais on pourra en discuter après. Moi, j'ai envie simplement de dire, ta façon de penser me plaît aussi, m'intéresse aussi. Je suis pas, ça n'exclut pas, parce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas ce que toi tu dis. On peut avancer sur toujours ceux qui parlent le plus, qui vont parler dans ces conversations.
Ouais, moi ça me dit bien qu'on fasse des petits groupes, mais je voulais savoir si t'avais eu parce que t'avais pas fini ton truc.
Oui, voilà.
Je voulais pas parler de ça du tout.
Il te restait beaucoup de choses à dire.
Non, mais ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est de finir la présentation éventuellement.
Oui, j'ai fini.
Et après.
Après, faire un petit groupe, oui.
Sinon, 3 heures.
Mais quelque part, je trouvais ça intéressant aussi, justement, de réagir au fur et à mesure, parce que c'est ça qui enrichit.
Mais oui, c'est bien pour ceux qui parlent, mais vous êtes trois à parler, vous êtes gentils.
Mais non, mais parle, il n'y a aucun problème.
Ah ben ouais,
c'est facile.
On va faire des petits groupes, parce que vous. Range-toi sur ton être profond et tu comprendras pourquoi ça me fait chier.
Donc, il se mescasse.
C'est mesquin, oui.
C'est
pas grave. Bon, je continue là. Surtout que c'était une parenthèse. Donc, là, par rapport à la situation actuelle, il y a le CNER, donc, qui est un comité national d'évaluation de la recherche. J'ai donné un petit peu ses positions actuelles, ce qui va montrer un petit peu l'avenir au niveau de l'État, quelles sont leurs perspectives par rapport à l'expérimentation animale. Le titre, notamment, l'expérimentation animale, un levier pour les sciences et les techniques du vivant. Donc vous voyez qu'on est dans une phase de dégression qui n'est pas encore arrivée. Réaffirmer la valeur du prérequis animal dans un certain nombre de domaines d'activité en émergence, tels que la thérapie génique. Donc les choses sont marquées, maintenant l'animal, il faudra vraiment que ce soit un prérequis. 2. Poursuivre les recherches sur les xénogreffes, quelles que soient les perspectives introduites à terme par d'autres techniques, telles que la thérapie cellulaire. Donc, quel que soit, on continue au niveau de la thérapie des xénogreffes. Et 3, veiller à l'indépendance de la France en matière d'élevage de primates. Donc, ça, c'est suite à l'échec notamment de Holzheim. Il y a le retour, veiller à l'indépendance de la France pour avoir des élevages de primates. Il faut savoir que les primates viennent notamment du Cap-Vert et de Tanzanie, notamment pour les babouins actuellement. Donc, il n'y a toujours pas d'élevage de primates en France. Enfin, si, il y en a un Niederhausbergen, mais donc c'est assez peu pour l'expérimentation animale et il n'y a pas une autosuffisance, en tout cas au niveau national, pour tout ce qui est primates.
Il y a des primates dans l'expérimentation?
Ouais. Je ne sais plus les chiffres, mais c'est pas mal déjà.
C'est les chimpanzés, je
crois. Grand singe, il n'y a pas du tout.
Grand singe.
Ouais. Primates, 3840.
Les singes, je vais dire.
Donc macaques, babouins principalement. Voilà, donc ce que j'ai écrit.
Veiller à garder.
Oui.
C'est pas ma fille nationale.
Non, je commence à avoir un trou dans les yeux parce que j'ai pas mis mes lunettes et tout. Ça va être mon moi profond qui est remonté.
L'indépendance de la France.
Voilà, donc ce que je voulais dire en fait, c'est que d'un autre côté, je pense qu'on n'est pas dans le problème de fond, mais ça c'est.
que d'un côté, les défenseurs des animaux sont bloqués sur ces arguments scientifiques et sont donc bloqués à un problème de surface qui est lié au résultat, et que d'un autre côté, les expérimentateurs eux-mêmes s'évertuent à assurer le bien-être d'un animal qui reste néanmoins pourtant condamné à mourir expérimenté. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir la base et on reste tous... Finalement, on a un débat qui est pas sur le fond et on a une réponse en face d'un débat qui n'est pas sur le fond. Mais le problème ne s'arrête pas là. Et là, ça va devenir un tout petit peu plus polémique. Ce que je peux remarquer aujourd'hui, c'est qu'aucune association en France, je mets bien le mot association en France, aujourd'hui ne se consacre et n'a de campagne contre l'expérimentation animale, qui pour moi, c'est quand même pas anodin et c'est quand même un problème. La Ligue française contre la vivisection devient pratiquement inexistante. Et les autres associations, visiblement, il n'y a aucun responsable de campagne, il n'y a aucune campagne nationale contre l'expérimentation animale, ce qui est quand même assez...
Mais il n'y avait pas une campagne, excuse-moi de te couper encore une fois, mais...
Je t'en prie.
One Voice n'avait pas fait une campagne, qu'est-ce que c'était au fond? Parce qu'il y avait partout dans Paris, pour nous c'était incroyable, on voyait le petit singe... Ah, pour nous, ça a été incroyable de voir ça dans les...
Là, j'étais le responsable de campagne, donc je m'occupais de ça à l'époque. Mais
et alors, qu'est-ce qu'il en est advenu de cette campagne?
Eh bien, il n'y a plus de responsable de campagne.
Il y a des trucs contre la vivisection. Moi, j'ai eu des affiches à Narbonne récemment.
Mais ce n'est pas des campagnes. Pour moi, ça dépend le terme de campagne. Mais les campagnes, j'ai toujours le modèle de Greenpeace. C'est-à-dire ce sont des gens qui font du lobbying, qui ont des dossiers, qui travaillent des scientifiques. Il y a une communication et faire une affiche, ce n'est pas une campagne.
Ouais.
Et le problème de la protection animale, c'est qu'il n'y a pas de campagne. Il n'y a que les associations spécialistes, la PMAF, les anticorridas, qui font des campagnes parce qu'elles sont ciblées sur un sujet et elles suivent ce sujet à fond. Ce qu'on a parlé hier notamment aussi, et le foie gras, c'est ce qu'ils font dans Stop Gavage. Ouais. Mais au niveau expérimentation animale, actuellement, ceux qui font le plus, à la limite, je veux dire, ce sont des individus, des particuliers comme International Campaign, où ils vont effectivement prendre un sujet et c'est d'aller au fond, mais avec le temps qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont. Et le constat que je fais, peut-être que je me trompe, mais par rapport à ce que j'ai vécu pendant 6 ans en tant que responsable de campagne justement à One Voice, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le constat, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'association qui s'occupe de l'expérimentation animale et il n'y a aucune association spécialisée là-dessus.
Et tu penses savoir pourquoi? Il y a des raisons d'apprendre.
Mais c'est aussi, je ne sais pas, je dis, c'était dans tous les domaines pareil sur toutes les associations généralistes, en fait, et il n'y a pas une association spécialiste. Donc
Donne la main au comité scientifique.
Ce sont des comités scientifiques, ce n'est pas la protection animale. Voilà, c'est... Ouais.
Il y a des campagnes auprès de leurs lecteurs, en fait, mais qui sont des campagnes de...
C'est la communication.
Ouais,
c'est la
communication.
Ouais. Alors après, des affiches, tout ça, je ne dis pas que c'est inutile, mais je veux dire, à partir du moment, ça n'aboutit à rien.
Oui, c'est ça.
Parce que à la limite, je veux dire, même discussion qu'on a, je veux dire, il devrait y avoir des organisations qui ont effectivement des réflexions et un vrai travail. Moi, je trouve un exemple qui est assez fabuleux, c'est la BioAV en Angleterre, qui fait un super travail, la British Union Abolition Section, qui a vraiment un travail de fond. Ils sont 11 salariés ou 10 salariés que sur l'expérimentation animale, et il y a vraiment des investigations, des avancées dans ce sujet-là. Et en France, on n'a pas, alors qu'on est quand même les 20% de l'expérimentation animale en Europe.
La Ligue française contre la vivisection, alors pourquoi elle disparaît?
Je ne sais pas, je préfère éviter de dire pourquoi.
Voilà.
Non, je ne pose aucun intérêt.
Je ferme le micro si tu veux.
Non.
Non, mais attends, parce que c'est un petit temps. Excuse-moi.
Oui,
mais tu disais la PMF, Stop Gavage, tout ça. Je comprends très très bien. Ils ont ciblé jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur objectif, jusqu'à ce qu'ils obtiennent la victoire dans les objectifs qui se sont fixés. Donc normalement, la Ligue française contre la vivisection, elle est bien ciblée, Ligue française contre la vivisection. Donc pourquoi ça ne marche pas? Moi, j'aimerais bien comprendre.
Je ne sais pas, il faut leur demander.
Il faut leur demander pour réussir à les avoir.
Voilà, c'est pas, je pense qu'elle est en perte de vitesse. Quand on voit son journal, c'est maintenant un copier-coller de plein d'autres.
Ouais.
Ce qui est pas. Enfin, je pense, j'ai l'impression qu'ils sont plus
et
présents. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils sont présents dans d'autres régions.
Tu regardes leur bulletin, c'est tous les domaines de la défense animale.
Et souvent des photocopies de. Peut-être qu'ils sont présents dans d'autres régions, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'au niveau national, il n'y a pas de campagne contre l'expérimentation animale au niveau des associations. Et c'est quand même un constat qui me paraît important.
C'est grave.
Alors, je ne sais pas, en Italie, je crois qu'il y a la lave, mais ils font un petit peu de tout. Hein.
Alors au début, elle était supposée travailler sur la vivisection, mais pendant les années, elle a mis plutôt à côté le sujet. Elle s'occupe des autres choses, du transport des animaux, du zoo, du cirque. J'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte que c'est un sujet vraiment trop compliqué. Il y a un comité de médecins, de scientifiques contre la vivisection, mais il s'agit d'un groupe de techniciens qui sont supposés travailler au niveau scientifique alors, en suivant toutes les argumentations scientifiques. Il n'y a presque personne en Italie qui critique les argumentations scientifiques.
Et au niveau, est-ce qu'il y a une association de protection animale ou défense animale qui ne fait que ce sujet comme
non
plus.
Non.
D'accord. En Allemagne, quelqu'un sait ou non?
Non, justement, je voulais poser une question s'il y avait en France une association d'étudiants contre l'expérimentation animale. Parce qu'en Allemagne, ça existe, le SATI, ça existe depuis assez longtemps. Contre l'expérimentation mentale pendant les études, hein, pour ceux qui refusent, hein, objection de conscience, et pour pouvoir continuer leurs études quand même. Il y a une association.
À ma connaissance, en France, non. C'est rattaché à Euronich, toujours.
Ouais, c'est-à-dire, je ne sais pas, je me connais peu en médecine, mais je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays qu'en Allemagne. Et puis, je me demande pourquoi, comment personne, enfin, parmi les étudiants, n'a jamais eu l'idée de refuser
Il y en a qui le refusent, mais assez souvent ils changent de fille. Ils arrêtent la bio. Parce qu'ils ne veulent pas. Quoi.
Oui, d'accord, mais quand il y a un intérêt commun quand même de plusieurs personnes, on fonde quand même souvent une association pour défendre ses intérêts. Alors
Moi j'en avais fait, quand j'étais étudiant en bio, on avait fait une association, mais on était 5 quoi. C'était dans un cursus particulier. Ça s'appelait l'éthique, on a juste fait des pétitions, des choses comme ça. À la direction de la fac, on n'avait absolument rien à faire. Voilà, ça n'a aucun poids et on a juste tous eu zéro. Mais bon, tu es obligé de changer de filière, tu peux aussi avoir zéro et cartonner à côté.
D'accord.
Mais il n'y a pas d'association nationale ou de trucs. C'est vrai que dans ce cas-là, tu es tout seul, même pour avoir accès à l'information, l'objection de conscience. Il y en a en Belgique et en France, il y a l'impression qu'ils travaillent là-dessus. Ce serait pourtant énorme parce que les animaleries dans les facs, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux et dans des conditions délirantes. Hein.
Mais je pense aussi que cette organisation existe parce qu'il y a une autre organisation qui s'appelle Médecins contre expérimentation animale à Francfort, qui a le siège à Francfort, qui a un peu protégé l'organisation d'étudiants. Et il y a une organisation de médecins contre
la peau animale et antidote, en fait.
Oui, c'est des médecins, uniquement.
Enfin, des scientifiques.
Oui,
il y a un petit peu de
les scientifiques. Oui. Alors ça, c'est surtout des médecins pratiquants.
C'est un chercheur en biologie moléculaire, Claude Reiss. Enfin, c'est des... comment il s'appelle l'autre? L'un qui est dans la chirurgie dentaire. Pardon?
Ah, c'est que.
Ouais. Béquin, professeur Béquin aussi. Ouais. Ils sont pas nombreux en fait. Hein. Au niveau de ceux que ça intéresse, au niveau de l'objection de conscience, justement, ce qui est rarement. Beaucoup d'étudiants ne revendiquent pas en fait l'article 9 de la Convention européenne qui donne le droit à n'importe quel citoyen européen, donc de l'ancienne Convention européenne, hein, la Constitution, de revendiquer le droit de conscience tout simplement. Donc c'est un.
Validité dans le droit français.
Oui, tout à fait. Donc il faut revendiquer en tant qu'étudiant l'article 9 de la Convention européenne, le droit à l'objection de conscience, général. On a ce droit normalement, donc c'est toujours important de voir cela.
C'est quoi ce droit?
Article 9, Convention européenne, le droit à l'objection de conscience.
Il y a la Ligue qui avait une pétition,
je sais pas moi, j'avais lancé une bonne voix parce que moi ça me paraissait essentiel comme l'objection de conscience, enfin, je voulais absolument le faire parce que ça me paraît la base, notamment pour les étudiants, mais bon, c'était quelque chose qui n'a pas été...
Oui, c'est à propos de quoi? C'est général ou
ouais,
c'est à propos
c'est
de d'enseignement ou c'est à propos
général.
De...
On a le droit à l'objection de conscience en général, donc c'est très large. Mais elle n'a pas un poids juridique, cette convention. C'est une sorte comme charte des droits de l'homme, c'est une sorte de principe général. Qui n'est pas,
C'est quoi? C'est la convention européenne des droits de l'homme?
Le sauvegarde des droits de l'homme.
Non, c'est quoi? C'est quelle convention?
Je ne sais pas si ça s'appelle convention européenne.
Convention européenne?
Ouais. Le sauvegarde des droits de l'homme.
Sauvegarde des droits de l'homme.
C'est le texte sur lequel se base la Cour européenne des droits de l'homme ou pas? Ça change tout. Si c'est le texte sur lequel se base la Cour européenne des droits de l'homme, ça a valeur juridique et supranationale.
Moi j'avais vu qu'un avocat, ça n'avait pas valeur juridique là, c'est plutôt une valeur morale.
C'est pas,
je sais pas si c'est bien.
Ça peut servir pour le cantine aussi.
Oui, ça peut servir pour tout.
Bon, je continue. Autre problème, donc, ce que je disais, les associations, donc, c'est, voilà, c'est à creuser pourquoi, effectivement, en Italie, en France, il n'y a pas d'association ou de vrai travail, quelque part, professionnel sur ce sujet, d'un point de vue protection animale, je parle. La position de la Ligue française des droits de l'animal, qui est quand même très problématique quand on sait que Jean-Claude Nouet et comment il s'appelle, Georges Chapoutier sont des expérimentateurs eux-mêmes, alors qu'ils représentent le droit de l'animal en France.
Ça pose des problèmes, je trouve, mais bon, ça c'est... Voilà.
Et qu'ils le défendent. La liste cosmétique, alors je suis anti-liste cosmétique, ce qui m'a valu pas mal de problèmes, qui est distribuée donc, notamment sur les stands aussi bronzés sans cruauté. Je m'occupais de la liste cosmétique donc, à l'époque. J'ai toujours été contre cette liste parce qu'elle me semble aberrante. C'est-à-dire ?
Moi, j'y connais rien.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de... Étonné qu'il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas les fonds pour payer des audits, pour faire des contrôles au niveau des ingrédients qui, généralement, de toute façon, sont fabriqués soit au Japon, soit en Allemagne, soit aux États-Unis. Tout n'est qu'une question de confiance, qu'une question de mots. Et étonné qu'on ne peut pas avoir confiance avec les gens qui signent la charte, c'est une liste qui n'est pas du tout fiable, tout simplement. Et personne n'a les moyens. Non seulement les entreprises n'ont aucun intérêt à le payer parce qu'il n'y a pas suffisamment de consommateurs qui vont faire un poids d'un point de vue sur cet argument-là. Ouais. Et les associations n'ont pas les moyens de payer un audit. Donc personne ne paye l'audit. Donc on fait des listes. Je sais qu'il y a des noms sur ces listes qui sont totalement aberrants et qui ne devraient pas être là. Et je sais qu'ils testent. Ouais, et pourtant, ils sont sur la liste. Mais il n'y a pas que l'oral. La liste n'est pas valable du tout actuellement.
Qui comme qui ?
Ça veut dire qui ? Je veux dire, la liste n'est pas valable, c'est tout.
Si ça sert,
non, mais je sais pas. Non, est-ce qu'il faut les faire tous ? Mais le problème, c'est qu'il y en a aussi qui m'avaient répondu. Non, effectivement, on ne teste pas sur les produits cosmétiques. En creusant un peu. Non, on ne teste pas sur les produits cosmétiques, on teste sur les produits chimiques. Donc en fait, ils passent sous une autre réglementation. Voilà. Donc ils jouent sur les mots. Donc oui, on ne teste pas les produits cosmétiques. Mais il y a une obligation légale de tester sur les produits chimiques, donc en fait, il passe sous une autre obligation. Et j'avais rencontré, comment il s'appelle, Bernard Andrieux, donc, qui est le responsable expérimentation animale au ministère de la Recherche. Et les statistiques, je ne les ai pas ici, mais les statistiques sur les cosmétiques sont complètement hallucinantes. C'est-à-dire qu'on a une chute draconienne. C'était du style, il y a 40 souris qui ont été utilisées sur les cosmétiques en France en 2001. Enfin, un chiffre totalement hallucinant. Et je lui dis, mais monsieur, vous savez, vos statistiques, les statistiques sont fausses alors. Le bon père de famille, enfin le vrai expérimentateur très sympathique. Mais non, mais c'est moi qui les ai faits. Oui, c'est totalement faux. J'ai dit oui, mais sauf que le problème, c'est que les cosmétiques, ça porte au niveau du public parce que les gens, il y a des campagnes de communication, si on veut, au niveau des cosmétiques. Et ça fait pas très bien de tester à ce niveau-là, alors qu'on s'en fout à peu près de tous les autres domaines. Et je lui dis, mais non, mais parce que vous avez reporté toutes vos statistiques en fait, des animaux sur les produits cosmétiques, vous les avez simplement reportées sur les produits chimiques. Et on voit que la toxicologie, ça augmente, et bien d'un autre côté, ça diminue. Et puis ça a arrêté, il m'a dit, oui, vous avez raison, effectivement. Ah, oui, d'accord. Voilà. Donc en fait, on joue avec les chiffres, et effectivement.
Mais il y a une autre liste des substances non testées avant 78 ou 79, je ne sais pas
81.
Exactement. Il y a cette liste qui existe, et elle n'est pas fiable non plus.
Mais le problème des listes, de toute façon, personne ne se balade avec les listes, il faut aller regarder chaque produit avec les listes, je veux dire, c'est totalement ingérable.
Ouais.
Ça me paraît ingérable. Donc
Et d'un point de vue pratique, qu'est-ce que tu fais quoi,
Moi, d'un point de vue pratique, justement, je vais venir à ce qui me paraît le plus logique. C'est-à-dire que si on regarde la convergence des listes, de ce qui me paraît valable dans la vie, dans la liste, dans les listes qui circulent, pour avoir eu tous les protocoles et avoir vu effectivement les différents... et les listes aussi d'autres organisations, je pense que le plus logique, c'est de dire aux gens, consommez, si vous voulez, des cosmétiques, consommez des cosmétiques naturels bio. Point.
Oui.
Parce que le problème, c'est que tous les produits chimiques, de toute façon, doivent être testés sur animaux, c'est une obligation légale. Donc, prenez des produits naturels. Allez en magasin bio, prenez des produits naturels, point. C'est tout.
Mais ils n'ont pas
bio
jamais.
Non, mais bio, parce que le bio, on trouve surtout des produits naturels. C'est pour éviter d'avoir des produits chimiques dedans. Donc, achetez vos produits cosmétiques en magasin bio, point. Et si vous regardez d'ailleurs tous les produits qui sont valables dans la liste, je veux dire, c'est que des naturels, des produits naturels bio. Ah oui, des produits, je dis bio parce que des produits naturels.
Quand ils mettent le logo, quand ils mettent non testé sur les animaux, c'est en fait le produit fini.
Il n'y a pas de logo international, il n'y a pas d'obligation légale, c'est un logo qui ne veut rien dire.
Ah.
Donc c'est pas.
Ah ouais, même s'ils mettent un produit non testé sur les animaux, ça se trouve c'est pas vrai.
Et c'est pas un label comme AB qui est reconnu, où il y a des contrôles, il n'y a pas de contrôle.
Ah ouais,
c'est un label, comme vous pouvez mettre le label ce que vous voulez aujourd'hui.
Il y a le lapin avec la main sur la tête.
Mais peut-être qu'en Allemagne, il est
reconnu. Il n'est jamais marqué bio, mais jamais.
Oui, mais c'est pareil, c'est il est en Allemagne, celui-là.
C'est seulement avec le lapin avec la main sur la tête.
Mais je sais qu'il y a une grosse...
Et bio, justement, c'est le contraire. Bio, c'est souvent testé dermatologiquement, et c'est marqué dessus.
Mais il y a une grosse organisation, justement, en Allemagne, qui a refusé, c'est un gros débat depuis des années, de rentrer à la coalition européenne, et c'est une dame, justement, qui fait des recherches sur les cosmétiques et qui, elle-même... donc elle est contre l'expérimentation animale, mais qui connaît les choses, et elle refuse de rentrer dans cette liste. Et c'est un problème, ça bloque depuis 6 ans, 7 ans, et c'est pour ça que l'Allemagne n'est pas présente. Parce qu'ils refusent de rentrer dans la liste pour les raisons du doute. Parce qu'il y a une aberration. Les logos avec la main, avec les étoiles, tout ça, ce sont des logos complètement virtuels.
Il n'y a pas de contrôle.
Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Personne n'a les moyens de les payer, donc... Et pour terminer, je vais parler du projet REACH, dont vous avez entendu entendre parler, qui est donc un projet de réévaluation justement des produits chimiques. C'est la suite de ça, la suite logique. Et je vais venir à moi, qu'est-ce que je propose, entre guillemets, ce qui est peut-être complètement faux, mais c'est des pistes. Parce que c'est facile de critiquer, après il faut aussi proposer. donc le projet REACH, c'était un projet européen de réévaluation de tous les produits chimiques qui ont été testés notamment avant 1981. Il faut tout retester, c'est 100 000 produits chimiques qui officieusement ce serait 15 millions d'animaux. Il y en a tout le monde qui aime bien grossir les chiffres, ça pourrait monter jusqu'à 100 millions d'animaux, enfin bref, ça ferait beaucoup d'animaux réutilisés, donc pour des tests de toxicologie, c'est-à-dire les tests les plus douloureux. Le problème, c'est que moi, je suis un petit peu des deux côtés. Je suis à Greenpeace aussi. Et Greenpeace se bat pour le projet REACH. J'étais à One Voice qui se bat contre le projet REACH.
Contre l'expérimentation
humaine. Non, justement, c'est les trucs. Alors, il y a quelques petits mots parfois qui sont consensuels, mais la réalité sur le terrain, j'ai vu, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui se battent totalement contre le projet REACH et qui ne voient pas l'intérêt du tout du projet REACH. Or, le projet, je vais prendre un exemple tout bête, c'est ce qu'on appelle le PVC. Vous connaissez tous le PVC, c'est ces fenêtres blanches, là. Le PVC, vous l'incinérez, ça vous crée de la dioxine. La dioxine, c'est un produit c'est une substance avec du chlore, notamment, qui va remonter la chaîne alimentaire, qui va s'accumuler dans les graisses, qu'on appelle la bioaccumulation. Et on retrouve, au bout de la chaîne, tous les animaux les plus graisseux, du style... les phoques, ils sont encore un petit peu avant. Les derniers, ce sont justement les phoques qui ont consommé les poissons. Ce sont les bélugas. On va retrouver sur les bords des plages. On va les voir échouer, en train de mourir. Tout ça, c'est notamment à cause de l'accumulation de dioxines et de produits chimiques comme ça.
La dioxine, ça se répand partout dans l'air,
exemple.
Et donc nous en bénéficions. En cela, nous partageons le sort de nos frères animaux à plein poumon et les incinérateurs où il y a les populations qui habitent autour des grandes usines d'incinération aujourd'hui connaissent des taux de cancer qui augmentent de façon extrêmement significative. Ça, c'est pas du tout diffusé, il n'y a pas du tout d'information. Et il me semble d'ailleurs que ce sera une des raisons aussi de se connecter avec des associations qui ne travaillent pas rien que sur l'animal pour faire des campagnes qui regroupent des intérêts communs.
Et donc la dioxine fait partie de ce qu'on appelle des 12 salopards, enfin dans le milieu environnementaliste, les 12 salopards, c'est-à-dire les particules organiques persistantes, et qui sont donc, on connaît très bien la nocivité, et elles s'accumulent au niveau des graisses, etc. Et c'est un exemple donc de ces 12 produits chimiques, à savoir qu'il y a des produits chimiques qui sont créés chaque fois. Donc les associations s'opposent à ça, Greenpeace, je prends cet exemple, donc pour effectivement, il faut retester ou interdire ces produits. D'un autre côté, on a des associations, donc les associations de défense animale, elles qui vont complètement être contre le projet REACH, donc, c'est-à-dire nier finalement ce problème qui est un problème tant pour rapport à la santé humaine, on est humain, je ne devrais pas oublier la santé humaine non plus, qui sont directement la survie de milliers d'espèces, parce que je vous parle des phoques, des bélugas, mais c'est aussi il y a de moins en moins de moineaux qui sont aussi, parce qu'ils sont tous dans les villes, ils sont tous en train de périr à cause de la pollution. Les lacs, ils ont fait des études dans les lacs des Alpes, je veux dire, qui sont complètement pollués. On a des lacs absolument splendides, mais ils sont bourrés de pesticides, bourrés de produits chimiques, de métaux lourds. Ils sont splendides, mais il n'y a plus de vie dedans, etc. Donc ça concerne aussi l'animal, effectivement, l'animal de la nature. Ça concerne l'environnement, le végétal, etc.
Bon, on peut très bien ton exemple de PVC, parce que là, c'est des produits dont on connaît la toxicité. On sait que si on brûle les PVC, ça produit de la dioxine.
Mais c'est un exemple, parce qu'il y en a plein d'autres. Il y en a 100 000 et les autres sont évalués, ou alors il faut effectivement les évaluer. Donc c'est un exemple pour montrer que les produits chimiques, c'est loin d'être le problème. Bon, il faut pas le fait de rejeter REACH, c'est rejeter toutes ces réévaluations de tous les produits chimiques. Et le problème, c'est que d'un côté, Greenpeace m'a... Donc, vu que je travaille au niveau des toxiques à Greenpeace, je leur ai dit, écoutez, il y a quand même un problème d'expérimentation animale. Greenpeace a fait ce pas, et je vous ai emmené des guides, je vais vous donner tout à l'heure, où ils ont mis, d'ailleurs, page 12, je crois, expérimentation animale, et ils ont pris contact d'un point de vue scientifique avec Claude Reiss. Ils ont fait le pas, effectivement, de dire ben, on est pour le projet REACH, mais sans expérimentation animale, parce qu'il y a peut-être d'autres méthodes à développer, etc. Ils ont fait une ouverture en tant qu'environnementalistes, en tant que gens qui ont cette perception. J'ai fait la même chose avec les associations de défense animale, pour ne pas dire d'associations particulières. Rien à foutre, c'est non, il faut être contre projet REACH, etc. Le résultat aujourd'hui, effectivement, il y a même une lettre qui est assez hallucinante, c'est dommage que je l'ai pas, enfin, je la retrouve, de signer Chirac, Schröder et Blair qui disent il faut être contre le projet REACH parce que l'expérimentation animale c'est quelque chose de terrible. Ils ont pris cet argument là, c'est quand même extraordinaire. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a, les gens de Greenpeace nous l'ont dit, c'est-à-dire ils ont dit bah, bravo, parce que les chimistes sont en train de gagner. Et le projet REACH va tomber à l'eau grâce aux défenseurs des animaux.
Les industries de la chimie soutiennent les défenseurs
des animaux.
Là. Et la boucle est bouclée.
Voilà, donc c'est...
C'est pas grâce aux défenseurs.
Bah, on a donné tous
c'est
les arguments
politiques
pour.
Qui ont utilisé... elle n'arrive jamais à rien, la défense animale.
Ouais. Non, mais je veux dire, oui, on a donné tous les bâtons pour arriver
contre
elle.
Elle n'arrive pas.
Exactement, mais elle arrive très bien.
La preuve, c'est qu'ils ont repris nos arguments. Et les chimistes ont repris nos arguments.
C'est une instrumentalisation d'un argument qu'ils
utilisent. Oui, mais c'est-à-dire qu'on leur a donné aussi, on n'a pas pris cette. Au lieu de, comme Diane, c'est d'aller dans une union et d'aller vers quelque chose de commun ensemble, ce Greenpeace a fait ce pas. Nous, on a été incapable de le faire et je crois que c'est tout à fait.
Je veux dire, indépendamment des histoires de PVC et de phoques. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif que trois chefs d'État majeurs en Europe déclarent que c'est important, que la souffrance animale est importante. Même s'ils s'en fichent, le fait même qu'ils le disent implique qu'il y a une certaine conscience. Il y a une certaine conscience dans le public, une certaine motivation du public par rapport à cette question-là, et implique qu'il donne une visibilité publique à cette question-là.
Ah oui, non, mais
enfin, je veux dire.
Non, mais Chirac est un démagogue averti.
Oui,
très
non, mais
bien
que c'est un autre problème, je veux dire.
Non, c'est le problème. Cet argument, c'est que le public doit y être sensible.
Voilà, tout à fait.
Oui, mais il l'utilise justement pour faire. Il l'utilise pourquoi ? Il l'utilise pour donner libre champ aux industries chimiques. Alors,
il
faudrait voir le truc dans son ensemble et pas simplement. Créer ça, c'est bien, mais ça.
Attends, il y a Luc qui voulait dire quelque chose. Vas-y.
Sans juste, il faudrait prendre la liste des 100 000, peut-être les regarder un à un, mais il me semble que sur le PVC, en Allemagne, c'est interdit dans les habitations sans qu'il y ait du produit REACH. Enfin, je veux dire, et que l'industrie allemande recycle son PVC en foutant dans les fenêtres. Enfin, vous pouvez peut-être me le confirmer ou me l'affirmer, mais pas. Moi, c'est le
PVC est interdit, ça c'est correct, oui, voilà. Mais
le PVC est interdit en Allemagne alors qu'il n'y a pas eu de projet REACH.
Est-ce qu'il est fabriqué quand même?
Et il recycle dans les fenêtres.
On
peut l'interdire.
Je vais aller où je veux en venir, puisque ce que je veux en venir, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est quand même remarquable aujourd'hui de voir qu'on va utiliser des animaux pour légiférer la prolifération de produits chimiques. C'est-à-dire qu'on va utiliser des animaux donc pour arriver à développer à arriver à justifier finalement l'utilisation de produits chimiques donc à travers le projet REACH. Et une fois que les produits chimiques vont être utilisés, on va voir qu'effectivement, comme on le sait, il y a des problèmes cancérigènes, pathogènes, etc. Mutagènes, pardon. Et que les animaux vont être utilisés en fin de chaîne aussi, c'est-à-dire que l'animal est utilisé avant et après. Et ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que, à mon avis, le problème fondamental, c'est pas de s'occuper comment on va arriver à soigner les maladies, les cancers comme ça, c'est de voir pourquoi on en arrive là. Et je trouve que finalement, Greenpeace et des associations sont quelque part plus à la racine du problème. Alors, je vais vous donner d'autres exemples. Qui soit à mon avis, qui devrait des positionnements. Il y a eu l'appel de Paris par le professeur Belpom, lui qui n'a pas du tout pris en compte l'aspect expérimentation animale, mais qui dit effectivement il y a énormément de cancers qui se développent. Il y a eu des bases des recherches qui ont été faites là-dessus, et on voit qu'effectivement c'est un gros problème. 90 à 95% des cancers actuels sont d'origine externe, c'est-à-dire la pollution, c'est la consommation carnée, donc
ou alimentaire.
Jérôme Bernard Pellet pour en parler, notamment au niveau de certaines, notamment tout ce qui est cancer à la prostate, etc. Donc l'argument de manger moins de viande ou de ne plus en manger est un argument effectivement qui est, je dirais, central au niveau de l'expérimentation animale, pourtant il n'est jamais utilisé non plus. C'est Donc l'environnement, je disais les substances chimiques, c'est la... Je me répète un petit peu là. Donc c'est-à-dire remettre aussi en cause, et je pense qu'il devrait y avoir aussi un argument plus environnementaliste si on est contre l'expérimentation animale, parce que le problème de base vient là, c'est-à-dire qu'il n'est que la résultante finalement de notre dérive de notre société, qui est une société de consommation, comme dirait Rabi, hors sol, c'est-à-dire qu'on est uniquement... pour ça que même je dirais que le côté utilisation pesticides dans l'agriculture, bah, il ne faut pas s'étonner après qu'effectivement il y a des cancers ou quoi que ce soit. Je veux dire, par rapport à des suites qui ressortent, je veux dire, s'il y a directement des effets. Donc manger biologique, ce n'est pas une aberration non plus quand on est défenseur animaux. Parce que de toute façon, c'est la résultante. Après, on arrive à l'expérimentation animale. Alors soit on va se défendre en disant il faut mettre des méthodes substitutives, il faut, etc. Alors que le problème finalement est un problème qui se place au niveau environnemental. Alors que moi aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe totalement, je vois une scission entre deux mouvements.
Qui doutent de la convergence entre les conceptions environnementales et puis notre souci des animaux, s'il y a des gens qui doutent de ça.
Ben moi, par mon expérience, peut-être que je suis... Par mon expérience, je vois qu'effectivement, il y a une véritable césure entre deux mondes, c'est le monde des environnementalistes et le monde de l'animal. C'est pas un monde global de respect de la vie entre... de travail ensemble, et je parlerai aussi avec les associations qui défendent les droits de l'homme, c'est une sorte de partition où chacun de son côté, alors qu'en fait le problème est global, et que je dirais que Greenpeace, pour moi, au niveau de l'expérimentation animale, finalement est plus juste parce qu'il se trouve plus à la racine du problème. Et je vais vous faire passer, si vous voulez, c'est la liste qui diffuse, donc qui est une liste qui s'appelle Cosmetox. Ils ont retesté des produits, les produits cosmétiques, mais aussi des chaussures, etc., Adidas et tout ce qu'on veut, mais là c'est surtout tout ce qui est cosmétique, ingrédients, de produits ménagers, etc., pour voir finalement tous les produits qui vont avoir des incidences, notamment les phtalates, qui vont avoir des incidences sur le système immunitaire, qui vont avoir des incidences cancérigènes, etc. Et ils ont fait une liste rouge, une liste orange et une liste verte. Et ben le problème, c'est qu'effectivement, si on a des problèmes de cancer ou des problèmes du système immunitaire, qui c'est qui paye le prix à la fin? C'est nous en tant qu'êtres humains, c'est l'environnement, mais c'est aussi les animaux au niveau de l'expérimentation animale. Finalement, ils sont à la base, et si on regarde leur liste verte, qu'est-ce qu'on arrive? Au même constat, on arrive sur Santifolia, les parfums de rosine, Velleda, etc., c'est-à-dire exactement des produits naturels qu'on va finalement, ceux qui se me semblent valables dans la liste, on va retrouver sur le même genre de produits, c'est-à-dire retourner vers des produits qui sont naturels, parce que aussi pas bourrés de pesticides ou pas bourrés de produits chimiques, etc. Et du coup, il y a une convergence, et finalement, pourquoi faire des listes?
On a besoin de se démontrer qu'on est tous dans le même bateau.
En ceux qui en veulent.
Je débat.
Je ne conteste pas qu'on baisse un peu.
Non, mais vous avez
l'environnement et tout ça. Mais pour moi, c'est déjà du passé. Parce que c'est le danger maintenant pour enfin, l'expérimentation animale et pour la recherche fondamentale. C'est-à-dire.
C'est un vrai fils bioaroma. D'ailleurs, il croyait qu'on démarrait.
On a plus de temps. L'expérimentation va dans la recherche fondamentale.
Je ne vois pas.
Les chercheurs veulent continuer à remplir leur budget, veulent faire du.
Oui, tout à fait, oui.
Le moins cher possible, et ça va dans ce sens. Ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est déjà du passé. L'expérimentation animale ne va pas s'arrêter pour autant, même si tout le monde...
Mais de toute façon, on ne va pas changer du jour au lendemain. Le virage, on ne peut pas le faire du jour au lendemain, je veux dire après.
Au contraire, ça augmente.
Toi,
c'est un peu nostalgique.
Mais c'est pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer aussi notre façon de nous comporter pour arriver.
C'est-à-dire qu'on peut changer notre façon de. Tout le monde peut vivre naturel et tout ça, si tout le monde mangeait bio et tout ça, ça ne changerait rien du tout. Rien du tout à l'expérimentation animale, parce qu'elle est faite pour elle-même, par les chercheurs, par les États, par les budgets qu'on leur donne et tout ça. Par le progrès technique, quoi. Et c'est le moyen le moins cher pour avancer. Le progrès technique, c'est une avalanche qui ne va jamais s'arrêter parce qu'on mange bio, nous.
Et bien, ce que j'ai tendance à remarquer aussi, c'est le problème des cosmétiques. Je vais prendre cet exemple. Est-ce que, finalement, le combat qui me paraît un petit peu hallucinant, c'est-à-dire pour les produits cosmétiques qui est très à la mode, on va... voir est-ce qu'on peut mettre des méthodes substitutives, etc. Et pourquoi il n'y a pas un discours aussi qui dit, finalement, je prends le dernier exemple de L'Oréal, où ils vont créer une crème qui a certainement été testée sur les animaux pour avoir un effet mouillé pendant 12 heures, que finalement, mieux vaut remettre en cause cette innovation plutôt que de dire comment faire un truc substitutif pour que les animaux ne soient pas utilisés.
Oui, on est quand même dans un truc...
Oui, en fait, moi, je voulais... Parce que là, je... C'était ta conclusion ou tu voulais dire d'autres choses?
C'est presque ma conclusion. Je termine et je conclue. Voilà, donc simplement dire, je pense qu'il faudrait avant tout,
ça exclut pas le travail effectivement dans notre milieu de défense animale, mais ça demandera aussi une ouverture. Je crois que c'est page 12 hein, qui l'ont fait. Oui, la question des tests sur animaux, voilà page 12. Ça demanderait, je trouve, une ouverture, arrêter d'être dans une partition entre d'un côté Greenpeace, d'un côté les associations de défense animale, les environnementalistes, etc. Mais d'avoir plus une convergence et un travail en commun avec chacun de particularités, ça n'empêche pas. Un travail aussi au niveau sortir un petit peu du côté franco-français, alors qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus internationaux. Je pense aux produits chimiques, qui est un problème qui se pose au niveau de l'OMC. Et le problème, c'est que le travail international n'existe pratiquement pas non plus. Il y a l'Eurogroupe qui le fait, mais ça reste relativement marginal. Et la dernière chose, c'est aussi, alors là je sais que c'est, je vais prendre des foudres, mais tant pis, c'est aussi, j'étais il y a 2 ans sur le plateau du Larzac, où il y avait la réunion des altermondialistes, j'ai quand même été frappé, c'est qu'on dit que les altermondialistes n'intègrent pas l'aspect animal des choses, mais que les associations des défenses animales ne sont pas du tout présentes dans cette autre vision du monde. On peut être tout à fait contre cette autre vision du monde, mais on n'est même pas dedans. Donc j'avais proposé, moi, d'aller tenir un stand sur le Larzac là-bas, c'était non, et effectivement, on voit plein de représentants un petit peu plein de choses, et les associations de défense animale ne sont pas là-dedans, et ne représentent pas leurs idées, et on arrive effectivement avec des associations, des organismes attaquent qui ont quand même une certaine influence de plus en plus, qui ne sont même pas conscients du côté, alors antispéciste encore moins, mais tout ça, mais qui ne peuvent pas en être conscients, de toute façon on n'est pas présent, on ne discute pas avec eux, et on fait une séparation avec eux. Parce que José Bové bouffe de la viande, moi c'est ce que j'entends. José Bové de la viande. Non, mais c'est la réponse que j'ai. Non, non, mais je dis, c'est la réponse que j'ai eue moi.
Pour organiser un débat sur l'antispécisme.
D'accord, mais c'est à peu près que les antispécistes qui vont gérer, mais il n'y a pas vraiment des grands stands non plus. Moi j'ai demandé à OneVoice d'y aller par exemple. La réponse c'est.
Mais on en fera un grand stand.
Non, mais je dis, il n'y a pas une présence de la défense animale qui est visible en tout cas. Moi j'ai demandé notamment qu'on y aille, et la réponse qu'on m'a dit, non, on n'y va pas parce que José bouffe de la viande. Effectivement, si on arrive là-dedans, mais il y a un autre monde qui va se construire. Des altermondialistes peut-être qui vont proposer. On est pour ou contre, mais c'est un espoir. Et ben on sera absent dedans, ben il ne faudra pas pleurer après. Voilà. Et pour terminer, je vous fais passer un texte que j'avais.
On peut aller aussi à l'UMP ou je sais pas quoi.
Oui.
Si on considère bouffer de la viande, effectivement, oui, c'est pas un argument.
Il est important.
L'UMP puissant pour boycotter un truc. Ou aller voir ailleurs, je veux dire, c'est même pas boycotter, c'est faire ailleurs.
Non, on peut faire ailleurs, on veut. Mais enfin, bah, le mouvement altermondialiste, c'est tout et n'importe quoi.
Oui, moi je voulais.
Et je fais juste passer ça, après je me taise.
Il faut pas que les environnementalistes et Greenpeace et autres mouvements et mouvements attaquants, citoyennistes, altermondialistes.
Il y a toujours à chercher des connexions.
S'ouvrir, c'est pas forcément.
Chercher des connexions. C'est pas dire
qu'on n'a pas nos particularités, etc.
Oui,
c'est... Moi, je donne des pistes qui me sont personnelles. C'est des pistes, ça ouvre par rapport à l'expérimentation animale. Après, je vous fais passer seulement un texte, après je me teste. C'est par rapport à un texte que j'avais écrit chez Poucan en début d'année. Je sais qu'il y en a, David n'est pas d'accord avec ça. C'était à choisir entre une souris et un enfant. C'est une réflexion que j'avais écrite sur l'expérimentation animale. Donc ceux que ça intéresse.
On peut faire des groupes.
Voilà.
Hein, on peut faire des groupes.
Et voilà, j'ai fini.
Juste un petit mot sur. Moi je suis pas d'accord sur l'idée que la nature, les animaux, c'est un grand tout et que c'est tout ensemble. Mais juste un petit mot sur cette question là. Est-ce que tu dis que les produits qui sont naturels sont dans la liste verte? Donc, sont a priori non toxiques. Comment est-ce qu'on sait qu'ils sont non toxiques ?
Il n'y a pas de garantie 100%.
Je veux dire que il me semble qu'il y a un certain point de vue réglementaire qui est que lorsqu'on produit un produit nouveau, un produit chimique nouveau, il est a priori suspect d'être toxique, d'être cancérigène, d'être ceci, d'être cela. Lorsqu'on découvre ou lorsqu'on importe ou lorsqu'on crée simplement par des moyens plus ou moins naturels ou considérés comme naturels, c'est-à-dire simplement de la cuisine ou des choses comme ça, des produits nouveaux, chimiquement nouveaux, à partir de choses naturelles, c'est-à-dire des tomates, ou si un jour quelqu'un se met à commercialiser, je ne sais pas, un extrait de feuilles de tomates par exemple, il n'y a pas cette obligation de tester. Il n'y a pas l'a priori comme quoi ça peut être quelque chose de toxique. Simplement parce que c'est naturel, simplement parce que c'est dans la nature. Il se trouve que, par exemple, les feuilles de tomates sont toxiques. Enfin, ça, on le sait. Il y a plein de choses toxiques dans la nature. Il y a un certain nombre de choses toxiques dans la nature qu'on a éliminées parce que, par la force des choses, les gens qui mangeaient ce qu'on mange en général, c'est plutôt ce qui est moins toxique par rapport à ce qui est le plus toxique. Mais il me semble que moi je suis pas convaincu que ça soit fiable de dire parce que c'est naturel, c'est pas toxique. Et la logique disant il faut REACH parce qu'il y a énormément de produits chimiques qui sont produits par l'industrie chimique, ou à la racine du problème en fait il faudrait faire des choses naturelles et pas chimiques, moi je pourrais demander mais est-ce qu'il faudrait pas un REACH aussi pour les par ta même logique, est-ce qu'il faudrait pas un REACH aussi pour les 25 000 produits chimiques qu'on peut détecter dans une tomate, tu vois. Dont certaines substances sont certainement en quantité très petite, mais qui contribuent peut-être aussi au nombre de cancers qu'on trouve dans la population.
Mais je ne veux pas avoir un mythe de la nature qui n'est pas toxique. Je veux dire, il y a énormément de produits qui sont toxiques.
Il y a
que
du poison dans la nature. Enfin, il y a beaucoup de
scientifiques là, justement, sur les dangers. Enfin, je pense que...
Mais la toxicité des produits naturels, il y en a énormément, effectivement.
Bah, oui, mais enfin, ça...
Oui,
ça
pourquoi
je parlais d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire que d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas une obligation légale. Il y a une obligation légale de tout produit de synthèse à être testé sur animaux pour sa mise sur le marché. C'est clair et net. Il n'y a pas cette obligation légale pour tous les produits naturels. C'est tout.
Oui, mais la dérive a commencé à être un peu...
Donc, à partir du moment où on fait une liste de cosmétiques des produits chimiques, on est sûr que c'est passé par l'animal.
Oui.
Et Body Shop, d'ailleurs, est sur la liste rouge, parce que le Body Shop pose d'énormes problèmes, notamment son White Musk. Alors, est-ce que d'un côté, on peut mettre sur une liste, dire aux gens, acheter White Musk parce que, chez Body Shop, parce que c'est pas testé sur animaux, alors que chez Greenpeace, il va être, notamment parce qu'il va avoir des influences sur le système immunitaire, etc., ils vont dire de ne pas le prendre.
Oui, mais ton raisonnement qui défendait REACH sur la base de la santé humaine, il pourrait défendre aussi un REACH bis pour les produits naturels.
Mais non, parce que les produits naturels, les humains, enfin, je pense qu'ils sont connus. Bien sûr, on fait toujours des découvertes, mais si on va dans les jungles, on a énormément de choses à découvrir, en effet, dans les produits naturels, mais ils n'ont pas d'application massive dans le monde technique. Les produits naturels, aujourd'hui, ne sont pas un enjeu...
Ils sont dans n'importe quelle tomate.
Oui, non, mais enfin, je veux dire, on n'a quand même pas besoin de faire des analyses des choses dont on connaît depuis longtemps... les qualités.
Et pourquoi si on découvrait que dans les tomates...
Quand on invente une molécule nouvelle à partir d'une association de différents atomes, d'une façon délibérée ou accidentelle, on invente une molécule, elle est non connue dans la nature, elle est non connue tout court jusqu'à présent, on l'invente, il est un peu normal de savoir à quoi on a affaire, surtout quand on a l'intention de l'utiliser de toute façon.
Mais le problème, par exemple, le tabac, on a changé complètement la façon ancienne d'utiliser le tabac, où ça devait être chiqué ou je ne sais pas quoi. Maintenant, c'est fumé en grande quantité. Et bien, de fait, on ne pouvait pas prévoir, et ce n'était pas prévu au départ, que le tabac, ça avait un effet aussi toxicologique.
Oui, mais alors
non, mais c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec l'histoire naturelle ou pas naturelle, cette histoire de toxicologie et cette histoire d'éventuelle nécessité de test de toxicologie.
C'est pour ça que j'ai parlé de la persistance, parce que le problème, la différence, effectivement, il y a des produits naturels qui sont des poisons, mais il n'y a pas cette persistance parce que ce sont des produits qui se dégradent. Or, le problème des produits chimiques, c'est qu'ils sont stables. Beaucoup sont stables. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est ce problème, c'est notamment avec des cellules, des molécules telles que le chlore ou le fluor qui pose ce problème, d'où d'ailleurs le problème de la couche d'ozone. C'est la stabilité des produits chimiques est complètement différente au niveau des produits naturels.
Non. Il y a certaines catégories de produits de synthèse qui sont stables et ces catégories sont bien connues. Je veux dire, les organochlorés, il y a un certain nombre de catégories dont on sait que ça ne se dégrade pas. Et c'est clair que cette dégradation, je veux dire, elle a lieu dans les sols, elle a lieu dans l'environnement. Ça n'a rien à voir avec les tests sur animaux, je veux dire, c'est un tout autre domaine de tests chimiques. Je veux dire, on est en dehors de. Si on faisait un REACH pour savoir quels sont les produits qui sont biodégradables, mais ça serait beaucoup plus rapide parce qu'on sait déjà pratiquement les résultats et c'est un tout autre critère. Je veux dire, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec le critère de toxicité.
Le problème, je ne l'ai pas soulevé, mais c'est vrai que par rapport à REACH, la solution qui est faite, c'est même pas de refaire des tests, des méthodes substitutives, c'est que tous les résultats, finalement, et on a l'expérience suffisamment depuis 1980 avec tous les produits, c'est qu'il y a des bases de données qui existent dans toutes les entreprises, mais le problème, c'est qu'elles ne veulent pas partager les bases de données entre elles. Donc on est obligé de tout retester, alors qu'en fait, toutes les bases de données existent déjà. Et ça, c'est le problème fondamental qui est soulevé au niveau européen. Mais c'est le problème de la libre concurrence. Donc, en fait, les bases ne sont pas partagées. On préfère retester sur 15 millions d'animaux plutôt que de partager des bases de données.
On va avoir des données domaine public au lieu qu'elles soient estampillées. Voilà.
David, on lance les groupes. Franck, pardon.
Balance, je vous ai pris. Si vous voulez faire des groupes, c'est lancé.
Ouais, voilà. On procède comment ?
Quelle heure est-il ?
Ça fait deux heures de communication.
Un groupe extérieur, un groupe intérieur.